Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien, ça roule ?
Impeccable, et toi Mathieu ?
Non, je me réveille.
Ah oui, je vois ça, oui.
Ouais, non, mais on enregistre un matin, c'est n'importe quoi. C'est les vacances ?
C'est les vacances.
Et pourtant les gens viennent.
Ils viennent le matin.
C'est super, le matin en vacances, c'est n'importe quoi. Vous verrez, ils sont courageux. On va vous parler un petit peu d'iTunes, comme on le répète à chaque fois. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, une note sur iTunes, ça nous fait vachement plaisir et en plus ça nous aide beaucoup à être visible et à remonter dans les classements.
Du coup, on va vous lire celui de Wonder Lila, qu'on remercie au passage.
Petit commentaire qui fait plaisir.
Ce doit être le seul podcast français sur l'écriture de scénarios intéressant pour les passionnés d'écriture et pour ceux qui souhaitent s'améliorer, voire se professionnaliser. Les invités sont sympas, tout comme Adrien et Mathieu. Continuez les gars, bah, c'est super sympa. Alors c'est pas tout à fait exact, parce qu'il existe un autre podcast, celui de Dominique Montet, intitulé Dialogue d'auteur, et qui est plutôt sympa aussi. Dominique, si tu nous écoutes.
Et il y en a en anglais aussi, une chier, mais
un paquet.
Nous on parle français. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Adrien ?
Alors on va parler de lecture, plus précisément de lecture, de scénario.
Ah, je croyais que tu allais nous parler des romans que t'emportes sur la plage.
Voilà, je pensais faire ça au début, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu...
Un peu chiant, ouais. Parce que en plus tu lis un peu de la merde, non ?
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça. T'as des goûts de chiottes. Parce qu'une fois qu'un scénario s'est écrit, bah, faut bien le faire lire.
Tu peux aussi le mettre dans un placard, si tu veux.
Ouais, mais ça sert à quoi ?
Bah, peut-être qu'on va demander à nos invités ce qu'ils en pensent.
Le placard ou la lecture, c'est peut-être à eux de trancher. En tout cas, on a des super invités qui sont sympas, comme le dit Wonder Lila dans son commentaire. Elle a prédit que nos invités seraient sympas aujourd'hui. Alors, pour parler de lecture de scénario, aujourd'hui avec nous, nous avons Déborah Hassoun, qui est scénariste, membre du collectif La Mafia Princesse, mais aussi chargée de développement chez Epithet Film, et qui donc lit plein de scénarios, et qui était élue à la Guilde des scénaristes. Salut Déborah, ça va ?
Salut, ça va.
J'ai bien dit ce qu'il fallait.
T'as bien dit tout ce qu'il fallait.
À côté de Déborah, on accueille également Liam Engel, qui est scénariste et réalisateur et membre des Lecteurs Anonymes. Et Liam lit beaucoup de scénarios pour différentes sociétés de production. Il en a fait des statistiques, même. C'est un peu un geek qui va nous parler de tout ça. Ça va être assez passionnant, vous allez voir. C'est ça, Liam ? Ça roule ?
Ça roule, ouais, toi ?
Ouais. Bah, on est content que tu viennes avec tous tes chiffres. Là, il y en a partout sur la table, c'est dégueulasse.
J'ai l'impression de t'avoir vu quelque part en agent immobilier. Tu serais pas aussi figurant par hasard ?
Ah, si. Figurant silhouette dans Adopte un veuf, grand film.
Voilà, c'est la deuxième vie de Liam Engel.
Il faut faire des heures, hein, vu que en tant que lecteur, on n'est pas toujours payé en heures, donc...
Alors on aimerait vous présenter aussi, comme d'habitude, Pierre-François, script docteur et script jardinier, mais en fait, il a une peine de réveil.
Voilà.
C'est la honte. Voilà, Pierre-François, si tu nous écoutes, tu es viré. Mais non, c'est pas vrai, on t'aime.
Avant d'entamer notre sujet, on propose de faire un petit tour de table pour connaître un peu mieux nos invités. Déborah, sur quoi tu travailles en ce moment ?
En ce moment...
C'est les vacances. Est-ce que tu travailles d'ailleurs en ce moment ?
C'est vrai.
C'est ma dernière semaine avant de partir en vacances. Alors, en fait, moi, je cumule... scénariste et chargé de développement, donc j'ai beaucoup d'histoires dans la tête, mais pas forcément celles que j'écris moi. Pour Epithet, en fait, maintenant, je suis passée à une phase où je suis surtout le travail des auteurs, plus que de la recherche de scénarios comme je faisais au tout début. Donc, on a 7 projets en développement chez Epithet. Donc mon travail là-bas, c'est vraiment de lire les versions des auteurs, de leur faire des retours, d'essayer d'avoir une version le plus aboutie possible avant de présenter au producteur. Donc ça veut dire que souvent, par exemple, j'ai un projet en ce moment que j'ai lu par acte avant qu'ils envoient le tout au producteur, donc j'ai pu leur faire des retours au fur et à mesure. Voilà, donc mon travail, c'est ça. Donc je travaille là-dessus et je travaille aussi en tant que scénariste. Ah. Où j'ai un projet de long métrage qui est une commande qui est coécrit avec Alice Vial et qui est un projet chez Arena Film.
D'accord.
Voilà, on en est au synopsis. Nous rendons le synopsis la semaine prochaine avant de partir en vacances.
C'est un peu le rush là ?
Non, ça va, moi j'ai fini.
Okay.
C'est à Alice de faire son taf maintenant. Non, je rigole. Non, ça va. C'est un projet qu'on aime bien, donc on avait des choses à dire dessus. Mais bon, ça reste une commande, donc c'est toujours, il faut quand même s'adapter à la commande, ce qui n'est pas le même travail que quand on écrit des projets perso. Mmh. Et justement, en projet perso, moi j'ai mon long qui a déjà un semi-producteur, on va dire, qui est un producteur associé, qui est Peléas Film, mais qui n'a pas encore son producteur principal. Et donc là, j'attends des réponses pour ça. Et j'ai écrit en attendant un court métrage parce que je veux passer à la réalisation. Donc l'idée, c'est de faire le court et le long avec le même producteur principal.
Super, ça en fait des choses.
Voilà.
T'as mérité tes vacances.
Ouais, voilà.
Super.
Exactement. Et puis j'ai une série aussi qui est dans les tuyaux, mais qui est pour l'instant où j'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux rien dire.
Chut. Ok, cet enregistrement s'autodétruira après le podcast. Sur quoi tu bosses en ce moment, Liam ?
En ce moment, je suis surtout en recherche de producteurs sur deux projets. Une série pour laquelle j'avais eu le fonds d'aide à l'innovation, pour laquelle donc, du coup, je cherche un producteur de télé. Mais c'est, le monde de la télé, c'est quand même... on essaie de rendre ça sexy, alors qu'en fait, c'est l'horreur absolue et c'est pas très... C'est un peu... Enfin bref.
Tu veux dire ton projet ou la télé ?
Non, le monde de la télé, en fait, je trouve que c'est un peu déprimant, en fait. Donc la manière dont les producteurs se cachent derrière les volontés des chaînes et étouffent toute tentative qui serait pas dans les clous, c'est un peu... Le cinéma, c'est plein de désavantages, c'est lent, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a quand même parfois plus de... une attitude un peu plus cow-boy où on fonce parfois sur des sujets.
C'est bien, balance.
Je suis là pour ça, non ?
Voilà,
c'est...
tu peux te lâcher.
Et sinon, j'ai un projet de long, de comédie pour laquelle je cherche des producteurs en ce moment. Voilà. Et sinon, à côté de ça, là, je suis aussi dialoguiste d'un jeu vidéo. Donc, activités différentes.
Tu peux un petit peu en parler ou pas ?
Je sais pas trop si j'ai le droit de rentrer dans les détails, donc je vais éviter, mais c'est un jeu français, enfin réalisé par un studio français qui sort l'an prochain... Un jeu d'enquête, voilà.
Sur quel support ?
Je ne saurais te dire exactement. Moi, je suis pas un gamer. Ils avaient vraiment besoin de quelqu'un avec une approche un peu scénaristique, enfin cinéma. Okay.
Il y a un moment
du dialogue
sur des écrans, mais
oui, oui, voilà, c'est ça, ouais.
D'accord. Bon bah, on patientera. Tu reviendras nous en parler.
Avec plaisir.
Moment-là.
Super. Bah, on peut rentrer dans le vif du sujet, Mathieu.
Bah oui, vas-y.
Là, alors, la lecture de scénario. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, à quoi sert un scénario et comment ça se lit ?
Est-ce que vous avez une réponse à ça ? C'est très vague, hein, comme question, mais...
Alors, à quoi sert un scénario à exciter un producteur ? Et comment ça se lit
Le plus vite possible.
Exactement.
Voilà, de très bonnes réponses. Non, mais plus sérieusement, comment ça se lit ? C'est-à-dire, quand on n'y connaît vraiment rien, encore une fois...
Ben, si c'est pas chiant, ça se lit comme un roman. Après, le problème, c'est plus la qualité du scénario que comment on le lit, en fait. Un scénario qui est bien écrit... Il est facile à lire, c'est une belle écriture, il y a des bons dialogues, il y a un rythme, voilà, il y a pas de différence finalement, on te raconte une histoire, que ce soit un roman ou un scénario, c'est pareil. Après, avoir des outils techniques pour analyser le scénario, là en effet c'est pas les mêmes que le roman, mais juste lire, finalement c'est juste est-ce que tu te fais chier ou pas quoi, enfin, c'est ça la question qu'il faut se poser.
Très bonne question hein, d'ailleurs.
C'est... Dans la vie en général.
Aussi. Alors, à qui s'adresse un scénario en général
au stade où on les lit, il s'adresse surtout à un producteur, si on devait résumer. A priori, moi je les lis à un stade où souvent ils n'ont pas encore de producteur, ils en cherchent un. Donc, ce n'est pas des scénarios qui sont forcément écrits tout de suite dans une version destinée à séduire un acteur ou aider un chef opérateur à faire sa lumière sur le tournage, etc. C'est vraiment des versions qui sont censées accrocher un producteur. Et pour accrocher un producteur, il faut déjà accrocher un lecteur. Et pour accrocher un lecteur qui lit beaucoup de scénarios, il faut, comme dit Déborah, écrire un scénario qui se lise facilement et qui soit entraînant. Et ça, c'est peut-être, personnellement, ma plus grande croisade, ma plus grande souffrance. Les gens, parfois, souvent, écrivent comme si ils étaient les seuls à être lus, en fait. Comme si on allait lire leur truc, comme si c'était la Bible ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, les scénarios, on les enquille. Et il faut vraiment mettre tout de notre côté pour être le plus facilement lisible possible. Sauter des lignes, mettre des majuscules, se distinguer, enfin faire quelque chose qui soit vraiment aéré,
qui sente bon.
Enfin là, tu parles de mise en page. Moi, je te dirais déjà, il faut savoir écrire.
Oui, non, bien sûr. Non, mais ça, c'est. Disons que il y a beaucoup de gens qui savent écrire ou enfin, qui savent faire une bonne histoire ou qui ont des personnages très subtils, etc. Mais où sur la page, t'arrives pas à accéder à ce qui est intéressant, ce qui est humainement riche et tout, parce que justement tu sautes des paragraphes, enfin, parce que t'as des paragraphes de 12 lignes et que t'as pas envie de le lire en fait. Et en France, on n'a pas cette culture de la mise en page et de la
l'efficacité,
de l'efficacité juste formelle, qui donne envie vraiment de, enfin qui fait que tu peux pas décrocher en fait.
Ouais, alors moi je suis plus tolérante avec la mise en page quand le scénario est bon en fait. C'est-à-dire que moi je m'en fiche s'il y a 12 lignes de didascalie, si les 12 lignes de didascalie elles m'emportent et que je vois des images et que je suis dans un film ou quoi déjà. Mm-hmm. Donc c'est comme je suis plus tolérante avec les fautes d'orthographe si c'est bon quoi. Je m'en fous un peu si c'est bon. ça, c'est pas grave.
Parce voilà. Toi aussi, peut-être ton point de vue, c'est que.
Je fais des fautes d'orthographe, donc je suis tolérante.
Déjà, voilà, t'es plus tolérante. Et c'est qu'une fois un bon scénario en main, même s'il est plein de fautes ou formellement il est un peu moins bien écrit que d'autres, tu sais que derrière, s'il plaît, il va être retravaillé. Et c'est
exactement,
ça qui compte, en fait.
Voilà. Alors après, moi, chez Epithète, je lis un peu de tout. Je lis des 4 pages comme je lis des dialogués. En fait, donc j'ai pas la même, évidemment, je projette pas la même chose quand je lis un 4 pages que quand je lis un dialogué. Après, nous, on a déjà signé autant sur des 5 pages que sur des dialogués, donc ça, y a pas de règle, quoi, je veux dire, là-dessus. Après, Epithète Film, c'est une boîte qui aussi existe depuis longtemps, qui a une structure solide. Ça fait 30 ans qu'ils existent. Donc forcément, ils ont une charge de développement. Donc une charge de développement, ça permet aussi de tout lire. Je pense que malheureusement, quand une boîte n'a pas de charge de développement, ils mettent très très longtemps à lire. Et surtout, ils vont peut-être plus aller chercher de la version dialoguée qu'à essayer de faire du vrai développement et de payer les auteurs pour qu'ils développent une idée qu'ils trouvent bien. Voilà, parce que le développement, c'est aussi de l'argent. Donc, il faut l'avoir dans les caisses, quoi. Et évidemment que toutes les boîtes de prod ne l'ont pas, malheureusement. Et qu'un auteur, pour qu'il écrive bien, il faut qu'il ait que ça en tête. Il faut qu'il ait le temps et les moyens d'écrire bien. Donc, moi, j'ai la chance de travailler dans une boîte qui donne ces moyens-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui, moi, me permet, en tant que chargée de développement, d'être hyper à l'aise par rapport à, justement, dans ma lecture, à me dire... Là, si on lui donne les moyens et le temps, il pourra réécrire et il y aura une satisfaction possible. En tout cas, il y a une promesse, même s'il y a des défauts. Mais souvent, c'est vrai que quand on lit des versions dialoguées, par exemple, on est plus exigeant parce qu'on se dit que la personne est allée au bout de ce qu'elle avait envie de faire, au moins d'une première version, mais qu'elle est allée au bout d'une idée, quoi. Et surtout, moi, je suis très, 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 très exigeante avec les dialogues.
D'accord, il y a peut-être moins d'indulgence sur une version dialoguée que sur 4 ou 5 pages.
Bah, disons qu'en fait, sur 4 ou 5 pages, je me dis on va travailler la structure, il y a une possible idée. Sur un traitement aussi, je me dis s'il y a une bonne structure, c'est déjà pas mal et tout. Sur une version dialoguée, si c'est très très mal dialogué, très compliqué pour moi de me visualiser parce que le dialogué amène quand même la tonalité du film, un univers. C'est ça que les gens y retiennent. Après... dans une version dialoguée, je serais un petit peu moins exigeante sur la structure si les dialogues sont hyper bons. À l'inverse, sur un traitement, je trouve que la structure doit être béton, quoi.
Alors, tu parles d'auteurs qui ont la chance d'être payés pour développer leur projet. Est-ce que tu sens une différence entre un auteur payé pour développer un projet et quelqu'un qui n'a pas été payé et qui a fait ça en galérant? Est-ce que tu arrives, en lisant tous les scénarios qui te passent par les mains, est-ce que tu vois une différence?
Bah, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend comment il a développé son long métrage. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait la formation de l'atelier scénario de la FEMIS. Donc là, on quand même, en général, enfin, moi, je me souviens quand je l'ai faite, déjà, on va quand même assez loin dans les versions et puis on a des retours tout le temps et tout. Donc au final, il y a des choses qui sortent qui sont plutôt de bonne qualité. Moi, dans mon groupe, on est 4 à avoir trouvé des producteurs en sortant de la FEMIS. Donc là, c'est une façon de développer qui est quand même très encadrée, très suivie, où il y a des intervenants toute l'année, où tu as le groupe, il y a l'émulation du groupe qui fait que tu as des retours tous les mois sur ton projet et tout ça. Donc je dirais que ceux-là, ils sont aussi bons que s'ils avaient été payés.
Oui, les conditions sont bonnes.
Les conditions sont bonnes, voilà, exactement. Et puis en général, c'est des projets très perso, donc les gens y mettent aussi beaucoup d'eux-mêmes. Après, oui, c'est sûr que le temps que tu accordes le développement... en étant payé et irremplaçable. Mais il y a des gens qui sortent des très bonnes versions sans être payés. Mais en général, c'est vrai que les bons trucs que j'ai lus, qui ont été développés tout seuls, c'est en général des scénarios d'école.
D'accord. Est-ce que vous faites des fiches de lecture dans vos expériences de lecture de scénarios?
Du coup, oui, moi je fais que ça. Ouais. C'est mon job, en fait.
Alors, qu'est-ce qu'une fiche de lecture? Encore une question piège pour toi, Liam.
En général, une fiche de lecture, ça dépend des sociétés, mais les points communs qui reviennent plus ou moins à chaque fois, c'est un résumé. Souvent, au moins une page, quoi. Parfois deux pages, selon les studios.
Un résumé de ce que toi, lecteur, tu as compris de l'histoire.
Ou de ce qu'elle raconte objectivement, ouais, c'est ça. Ouais, sans avis extérieur, juste un résumé factuel. Souvent, il y a un petit tableau récapitulatif où on peut cocher des cases en mode « les dialogues sont bons ». L'intrigue est mauvaise, etc. Enfin bref, des petites croix dans des cases. Et puis après, l'opinion du lecteur, pareil, structurée différemment selon la société. Parfois, c'est point positif, point négatif, en mode écriture libre, chacun décide ce qu'il veut y mettre. Parfois, c'est très réglementé, genre les dialogues, l'intrigue, les personnages. Puis parfois, des questions subsidiaire du style pensez-vous que ce film a une chance de succès, iriez-vous le voir, vu que c'est pas la même question.
Combien d'entrées au box-office?
Peut-être pas jusque là, mais plutôt ouais, a-t-il une chance de succès et iriez-vous le voir, ouais,
vu. Alors, que... combien de temps ça prend de faire une fiche de lecture?
Franchement, j'ai honte de répondre, mais souvent on est très mal payé et on n'est pas payé pour le temps que ça prendrait réellement pour le faire, en fait. Je vais revenir vite fait sur ce qu'on disait avec Déborah tout à l'heure, sur la plus grande tolérance qu'a Déborah par rapport au scénario qu'elle reçoit. C'est vrai que Déborah, elle est peut-être plus en première ligne, justement, et elle a à affronter véritablement les auteurs, à devoir leur répondre personnellement. Mmh. Moi, je suis plus une petite main, moi, je suis le mec au fond qui soigne les blessés, tu vois, je suis pas... voilà. Et enfin bref, moi, je participe pas vraiment au combat, tu vois, donc moi, je donne ma petite fiche, et après, il y a quelqu'un qui va...
Tu lis globalement pour des sociétés de distribution ou de production, voilà, exactement, des, ouais, gros studios, voilà, qui sont...
Mais je ne suis pas confronté aux auteurs eux-mêmes. Ouais. Et donc souvent, j'ai lu pour des plutôt grandes sociétés où, globalement, je lisais des premiers scénarios ou des scénarios vraiment pas très travaillés, où j'étais sûr qu'ils n'allaient pas être produits ou sélectionnés. Donc, je n'avais pas beaucoup de scrupules à un peu parfois rejeter les choses en bloc. Évidemment, quand il y a du talent, on le dit, pour la beauté du geste et pour espérer que le directeur du développement peut-être accepte un rendez-vous avec la personne et rencontre la personne et qu'il y ait un truc qui se fasse à l'avenir. Si je disais par exemple pour le CNC, on a un peu plus la main, j'imagine, sur le destin du film et il faut vraiment lire avec attention et avec bienveillance, etc.
Moi, j'ai lu pour le CNC, mais pour la télé, pour le fonds d'innovation. Voilà. J'ai déjà lu le projet de Liam, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai fait passer en plénière et qui a eu.
Tu confirmes ce que dit Liam ou pas du tout?
Mais je ne savais pas que c'était Liam à l'époque. Je l'ai su après quand on en a discuté.
Vu que c'est une des rares commissions qui est anonyme, justement. Mm.
Mais est-ce que tu confirmes ce qu'il dit sur la lecture? Est-ce que tu
peux plus de bienveillance? C'est vrai que moi, je suis en contact avec les auteurs, en fait. Alors, faut être honnête, je suis pas en contact avec tous les auteurs que je lis. Quand je reçois des choses d'auteurs que je ne connais pas du tout, je lis, parce que je lis tout. Tout ce que je reçois, même les mails de gens qui viennent de nulle part, voilà. Donc je lis tout, mais par exemple ceux-là, c'est vrai que je vais leur faire un retour écrit par mail qui est assez succinct parce que je peux pas rentrer dans les détails et parce que aussi l'expérience m'a montré que quand tu rentres dans les détails, les auteurs ils reviennent vers toi, ils demandent des explications, ils demandent s'ils peuvent re-t'envoyer quelque chose et que c'est trop compliqué à gérer et je peux pas lire plusieurs versions de la même chose quand je sais que dès le début ça va pas de toute façon, parce que moi aussi je lis pour des producteurs et mes producteurs d'Épithète, je les connais très bien maintenant. Ça aussi c'est un travail du chargé de développement, c'est de définir qu'est-ce que cherche le producteur. Moi je sais pas ce que je cherche moi, en fait. Je travaille pour une société qui a des envies, des désirs, qui a des producteurs qui sont très cinéphiles, qui ont un goût particulier pour un certain cinéma. Voilà, donc je suis dans une... Je suis une salariée, quoi, d'une entreprise. Donc ça rentre en compte aussi dans ma lecture, en fait. Il y a une lecture qui est technique, qui est, voilà, est-ce que le scénario tient la route? Et il y a une lecture qui est-ce que ça va faire bander mes producteurs, quoi.
Justement, comment est définie la ligne éditoriale de la société Épithète, celle dans laquelle tu travailles?
Alors moi, je reçois à peu près... je dirais, je sais pas, une quinzaine de choses à lire par mois. Je sais que j'ai lu plus de 170 scénarios en un an. Alors après, de tout, hein, des synopsis jusqu'au traitement. Et la société Épithète, elle cherche des films qui sont en général grand public, mais de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, on ne fera pas, sans jugement aucun, mais c'est juste que ce n'est pas le propre d'Épithète, on ne fera pas quelque chose comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on ne fera pas Connasse, on ne fera pas des grands films comme ça qui marchent extrêmement bien.
Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Épithète, est-ce que tu peux nous donner quelques films?
Bien sûr, Épithète, pour le premier grand film qu'ils ont fait et qui était leur premier film, c'est Ridicule, de Patrice Lecomte, écrit par Amy Waterhouse. Et après, ils ont fait des films comme Musée au Musée Bas, Tu seras mon fils, L'odeur de la mandarine, il n'y a pas longtemps. Et c'est aussi les coproducteurs de Belle et Sébastien, mais qui est très plus bon suivi par Radar que par nous. Moi, je ne suis pas le développement de Belle et Sébastien. Et donc, voilà, il faut définir en gros qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils veulent continuer à faire, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus faire, parce qu'il y a aussi un moment où une société a envie de changer d'image eux, ils changent aussi. Et donc,
les envies changent.
Les envies changent aussi. Mais on reste quand même dans un cinéma grand public, et grand public aussi dans l'idée de faire rêver. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'aiment pas trop les films d'appartement. C'est, ouais. C'est ce que j'appelle moi les films d'appartement. C'est-à-dire qu'ils aiment bien les vrais décors. Voilà, faire rêver, faire du spectacle. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà, et ils sont très attachés au fond, à ce qu'on raconte quelque chose vraiment.
Est-ce que tu, ouais. des fois tu leur apportes des pièces en leur disant voilà, regardez, ça c'est intéressant, même si ça ne correspond pas forcément à la ligne éditoriale ?
Alors en fait, quand je lis, moi j'ai plusieurs façons de lire les scénarios. C'est-à-dire que.
On veut tout savoir.
Il y a une partie des scénarios où de toute façon c'est pas bon. Donc voilà, c'est pas bon. Je peux rien y faire, c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Donc ça, ils vont pas à la poubelle, mais ils vont. Ils vont sur un fichier où il y a marqué lu et ça va pas. Voilà. Et il y a les scénarios qui sont bons, mais qui ne correspondent pas à Épithète et qui ne sont pas assez bons pour que je le présente au producteur, mais qui quand même ont quelque chose à défendre. Il y a les scénarios qui ne sont pas si géniaux que ça, mais qui ont une idée dedans qui pourrait correspondre à Épithète. Et là, je fais lire. C'est-à-dire que, où on se dit, est-ce qu'il y a avec un travail possible, mm-hmm. est-ce qu'on est intéressé ou pas ? Et puis après, il y a la catégorie scénario qui est hyper bien, mais qui ne correspond pas du tout à ce que cherche Épithète. Et ça, je fais lire, quoi qu'il arrive. Mmh. C'est-à-dire que je fais lire, mais ce n'est pas arrivé souvent dans l'année. Hein. Mais je fais lire en disant, voilà, cet auteur, quoi qu'il arrive, il faut le rencontrer. C'est-à-dire que moi, je suis là pour ça aussi. On pourra lui demander autre chose, on pourra le mettre sur un autre projet, on aura peut-être besoin de lui pour autre chose. Donc il faut le rencontrer. C'est arrivé deux fois dans l'année. Il se trouve que Épithète a une filiale qui s'appelle GECO, qui a une éditoriale beaucoup plus auteur. Il y a un des deux projets qui a été acheté par GECO. Et le deuxième projet, on n'a pas acheté le projet, mais on leur a commandé quelque chose sur 5 pages qu'ils avaient. Voilà.
Super.
Donc, ça sert... moi, en tant que chargée de développement, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon taf quand il se passe ça, parce que je suis allée plus loin que la base de juste lire et dire c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est Épithète, que c'est pas Épithète. J'ai mis en valeur des auteurs qui ont des qualités et qui peuvent travailler sur autre chose, qui ont du jus derrière, quoi.
Tu lances des carrières.
Je n'irai pas jusque là parce que c'est des gens qui auraient eu une carrière quoi qu'il arrive, mais en tout cas je les mets en valeur, quoi. C'est ça mon travail.
Du coup, Déborah, est-ce que tu fais des fiches de lecture toi aussi ou pas du
tout? Alors moi, c'était un deal avec Épithète dès le début. J'ai dit que je ne ferais pas de fiches de lecture parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas très utile sur les scénarios. De toute façon, on ne les prendra pas. Donc en gros, je lis, j'ai un fichier que je mets sur le réseau d'Épithète où je dis voilà, j'ai lu, ça va pas, mais si jamais il y a des auteurs qui disent je vous ai envoyé quelque chose, nanana, ils peuvent vérifier, ils peuvent voilà, ils savent que c'est dans le fichier ou ça veut dire que ça allait pas. Mmh. Et après je fais des fiches plus en développement, c'est-à-dire que quand on arrive sur des versions, sur des traitements, sur des versions dialoguées, enfin quand on a acheté le projet, en fait.
C'est en cours. Ouais.
Là, pour le coup, ça m'arrive souvent de faire des fiches, mais qui sont assez synthétiques, qui sont plus sur les points où ça va pas, ou c'est assez libre. En fait, il y a pas de fiche préétablie. C'est moi qui décide un peu comment je fais la fiche en fonction du projet, en fait.
D'accord. Et, question purement pratique, est-ce que c'est plus des fichiers informatiques ou du papier? Est-ce qu'il y a encore du papier ou il y a plus de papier?
C'est des fichiers informatiques, mais que j'imprime. Parce que moi, je suis très papier. Genre, je lis tout sur papier. Je peux pas lire sur l'ordi et tout ça.
Est-ce que vous recevez encore des scénarios par courrier?
Le projet qu'on a acheté sur 5 pages, les auteurs ont fait quelque chose d'assez fabuleux. C'est un projet historique qui se passe dans les années 50, voilà, et qui se passe dans un endroit précis. Et ils ont envoyé le traitement, alors qu'ils avaient déjà signé. Hein, c'était un projet qui était signé, qui était signé en amont, quoi. Mm-hmm. Ils ont envoyé le traitement dans une boîte avec les couleurs de l'hôtel dans lequel se passe le projet.
Super.
Et emballé et tout comme un cadeau au producteur. Ils ont fait ça. Et les producteurs ont apprécié, même si, mais si ça avait pas été, c'était assez bien joué, mais si ça avait pas été, ça avait pas été bon, ce qu'il y avait dedans, oui. Ça aurait été problématique. Mais comme c'était bon, ils peuvent se le permettre. Voilà, ils ont pris le risque en tout cas. Mais sinon, non, rarement on reçoit par papier.
D'accord. Et toi, Liam?
Pareil, au début, moi ça fait 8 ans que je lis là. Au début c'était en papier et maintenant il y a la transition à dû se faire il y a peut-être, environ 5 ans. Ouais, j'ai commencé à recevoir des PDF et maintenant c'est plus que des PDF. Ouais.
Mais c'est vrai qu'au CNC, même pour le fonds d'innovation, au début on recevait quand j'ai commencé en 2010, on recevait en papier et puis maintenant c'est en PDF.
Alors, c'est une question pour vous deux. Hein. Si je suis jeune auteur, au final, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je dois savoir ou faire avant d'envoyer mon scénario, soit Épithète, soit une des sociétés de production? Alors, il ne s'agit pas de dire ce que vous attendez précisément, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on se démarque ou les bonnes pratiques à connaître, en fait, tout simplement?
Moi, le truc, c'est que quand je connais les auteurs, je leur dis qu'ils peuvent m'envoyer un synopsis. Quand je ne les connais pas et qu'ils envoient, bon, je lis quand même, mais... quand je rencontre des auteurs, je leur demande de m'envoyer ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent bien. Voilà. Après, j'ai envie de dire, avant d'envoyer, il faut apprendre à écrire. C'est ça que je dirais. Parce que l'écriture, ça s'apprend, en fait. On a une tendance à croire que ça s'apprend pas.
De bons
je pense
conseils.
Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup plus de professionnalisation de l'écriture. Donc les gens commencent à le savoir.
Et on en a parlé dans notre podcast précédent sur la formation à l'écriture, voilà. En parlant d'école et d'autodidactisme. Toujours compliqué ce mot.
Mais après, il y a des gens qui écrivent très bien en étant autodidactes, donc je ne veux pas non plus les tuer dans leur envie, loin de là. Mais c'est vrai que même les autodidactes, ils apprennent en fait. Enfin, ils apprennent en écrivant.
On apprend toujours.
Voilà, non, mais puis ils apprennent en lisant, ils apprennent en écrivant, en faisant des essais, en faisant. Voilà. Mais que envoyer le premier truc que tu écris dans ta vie à un producteur, c'est risqué quand même. Alors je dirais que le mieux avant d'envoyer un producteur, c'est de faire lire à d'autres gens. À d'autres scénaristes, à des potes, à ton père et ta mère s'ils sont objectifs, mais rarement. Non, mais voilà, de faire lire, quoi. De faire lire, et même si la personne, elle te dit juste « j'ai eu du mal à le lire », déjà, c'est pas très bon signe.
Voilà. Oui.
Donc la lecture de scénario, ça passe aussi par l'entourage.
Exactement. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de collectifs qui se sont créés ces dernières années. Ça sert aussi à ça, les collectifs d'auteurs. Et c'est vrai que les lecteurs anonymes... Moi, j'ai eu l'occasion de faire lire mon scénar aux lecteurs anonymes. Qui voulait faire des fiches pour s'entraîner. Et donc, j'ai eu le droit à 3 fiches gratuites des lecteurs anonymes. Et c'était cool. Et c'est aussi comme ça qu'ils apprennent, je pense, à écrire. Il y a beaucoup de gens dans les lecteurs anonymes qui écrivent aussi, non ?
Bien sûr, ouais. Là, on est une majorité de scénaristes.
Donc, tu apprends ton métier en lisant et en écrivant et en analysant les autres scénarios. Et surtout, vraiment, faire lire avant, quoi. Faire lire avant, ne pas envoyer des premiers jets. C'est dommage parce que ça pourrait être mieux et c'est mettre un couteau dans le pied parce que moi, je lis tout, mais je lis pas deux fois.
Donc tu anticipes notre question, on n'a qu'une seule chance au final, quelque part.
Sur le même projet, oui. Sur plusieurs projets, non. C'est-à-dire que je peux relire sur d'autres projets, il n'y a pas de problème. Mais sur le même projet, je vais difficilement lire une deuxième fois.
On n'a qu'une seule première impression,
c'est vrai.
Il ne faut pas la griller.
Liam ?
Bah moi, je vais revenir sur ma marotte, comme on dit. En faisant fi du talent des gens et du travail qu'ils ont mis en amont dedans, comme je disais au début du podcast, moi, ce qui me rend fou, c'est l'absence de soins formels, vu que ça, c'est à la portée de tout le monde. Même si on est nul scénaristiquement, on peut toujours, ça coûte rien d'aller voir comment un vrai scénario est écrit. Et je comprends pas aujourd'hui que... dans un monde où, voilà, comme on dit, le scénario s'est vachement professionnalisé en France et on a accès, grâce à Internet, à des millions de scénarios, les gens ne peuvent pas écrire quelque chose qui soit aéré, lisible, avec une pagination correcte, où une page, c'est une minute, et où on a l'impression de suivre un film, enfin de lire le descriptif d'un vrai film, et pas une espèce d'hybride moitié romanesque, ou sinon hyper lapidaire, sans aucune émotion, avec que des descriptions sèches, ou avec des dialogues trop longs et des dialogues pas centrés. Bref, ça c'est... et là,
si
encore une fois,
j'en reviens...
Il est rouge. Il a une veine sur le front qui va éclater.
Non, mais voilà, mais j'en reviens à mon...
Tu veux un petit verre d'eau, hein? Tu veux reprendre du café?
Non, j'ai besoin d'un whisky, là.
Plus de café, là.
Mais globalement, mais ça c'est propre à ma fonction, vu que comme on disait tout à l'heure, moi je ne suis pas en contact avec les auteurs, donc je leur dois rien, je ne suis pas dans une... Je sais que... Enfin, 90% du temps, je sais que le scénario a aucune chance dans telle ou telle boîte. Je lis parce que les gens ont besoin d'un résumé pour archiver pour garder une trace écrite du scénario.
Est-ce que tu te fais une idée de l'auteur juste en ayant le scénario sous la main ?
Des fois, oui. Des fois, il y a même des petites notes d'intention. Ah. Et c'est sympa à lire, ouais. Enfin, et souvent, j'avoue que je tape dans Google le nom de la personne.
D'accord. Mm-hmm. Est-ce que tu donnes des pistes de réécriture dans tes retours, dans tes fiches de lecture ? Des pistes d'amélioration, en tout cas ?
Parfois, on me le demande quand c'est des scénarios que la société a déjà lu et qui veulent sur lesquels ils veulent rebondir une deuxième fois, quand ils hésitent un peu. Parfois, je me le permets quand ça me vient, quand j'ai une idée et que je me dis « Ah, pourquoi ils n'ont pas fait ci, ça ?» Des fois, on fait une fiche qui fait 4 pages juste parce qu'on est payé pour ça, mais on n'a vraiment pas grand-chose à dire. Donc, si tu as une idée qui te vient, bon, moi, ça fait un peu de remplissage et tu as l'impression de faire ton métier, quoi. Ça dépend vachement du moment. Enfin, il y a des fois, on est très inspiré, on déborde un peu. Il y a des fois, on a du mal à trouver quelque chose à dire. Donc oui, des fois, je donne des petites pistes, mais de manière très, très succincte. Hein. Je ne fais pas du tout de l'analyse précise, quoi.
Alors, je crois qu'on n'en a pas parlé avec toi, Liam, sur le nombre de scénarios que tu lis. Tu n'en as pas parlé.
J'ai calculé que j'en avais lu à peu près 500. 500 ou peut-être un peu plus en 8 ans.
Ça représente quoi au quotidien ?
Là, en l'occurrence, c'est moi-ci.
Tu aimes bien les chiffres ?
Ouais, moi qui aime bien les chiffres. En ce moment, j'en lis peut-être. J'ai dû en lire 5 le mois dernier. J'ai dû en lire 2 ce mois-ci.
Des longs métrages.
Des longs métrages, ouais.
Dialoguer et tout.
Ouais, dialoguer et tout. Ouais, je lis quasiment que ça. Hein.
D'accord.
Je pense que les gens reçoivent des synopsis, mais ils ne les transmettent pas au lecteur, vu que c'est dommage de payer de l'argent pour faire lire 15 pages ou 6 pages. Ou...
Du coup, on parlait tout à l'heure des bonnes pratiques à avoir, mais est-ce que finalement le lecteur a des bonnes pratiques à avoir avec les scénarios qu'il lit ? Est-ce qu'il y a une bonne fiche de lecture ? Comment on fait une bonne fiche ? Qu'est-ce qu'une bonne fiche de lecture selon toi ?
Je pense qu'on n'a pas le même travail à ce niveau-là avec Liam, parce que Liam, je ne suis même pas sûre que ces fiches de lecture soient lues par les auteurs. Je pense qu'ils sont lus par les producteurs, mais pas par les auteurs.
Elles sont peut-être retranscrites à l'oral au téléphone,
voilà,
je pense.
Ouais. C'est ça. Alors que moi, je rencontre les auteurs.
C'est systématique ou pas du tout ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les auteurs qui m'envoient par mail que je ne connais pas, je leur fais un retour par mail. Par contre, en général, quand je connais, je rencontre. Enfin, quand je connais, je sais pas que je rencontre, c'est que je vois la personne ou au moins je l'ai au téléphone. Encore plus quand c'est moi qui suis allée la chercher. Parce que moi je fais du travail de recherche de scénario, donc il y a des gens que j'appelle ou que je contacte en leur disant j'aimerais lire quelque chose, donc je trouve que c'est le minimum de répondre en tout cas. Après, quand il y a des auteurs qui m'envoient régulièrement des choses, là je leur fais pas un retour à chaque fois détaillé, je leur fais un petit retour par mail, voilà. Mais c'est vrai que comme je rencontre les auteurs, moi j'ai un rapport beaucoup plus analytique au scénario, c'est que je me dis quitte à pas reprendre leur scénario, autant que le rendez-vous avec moi serve un peu et que ça leur permette d'avoir des pistes de réécriture. Je me dis que c'est toujours ça de prix, en fait, pour eux. Et puis moi, ça m'amuse plus personnellement d'essayer de rebondir sur leur scénario et de leur proposer des choses que d'analyser un peu froidement qu'est-ce qui ne va pas, en fait.
Ouais.
Enfin, ça, c'est après, c'est des histoires de caractère, mais moi, ça m'amuse plus. C'est plus sympa d'en parler, puis moi, oui, alors là, tu vois, ton personnage, il a une caractérisation qui n'est pas crédible, ta trajectoire, elle manque de rythme, t'as pas d'incident déclencheur. Bon, je peux le faire, je le fais aussi en même temps, mais je préfère lui dire, tu vois, là, il y a un moment dans le scénario où je me suis demandé si c'était ça l'incident déclencheur. Et donc, si tu le remontes, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça que t'as envie de raconter ? Donc moi, c'est un peu... Je leur lance des pistes, en fait. Je leur lance des pistes de réflexion. Mais parce que ça, c'est aussi ma formation de scénariste et que moi, je travaille... Mon collectif, on a un atelier, donc on travaille ensemble, on travaille sur des projets. Donc on a l'habitude aussi de beaucoup rebondir sur ce que l'autre écrit. Donc voilà, c'est ma formation, c'est ma façon d'être, donc je fais comme ça. Et quand je rencontre les auteurs, c'est sûr que je prends des pincettes parce que je sais aussi ce que c'est de livrer un scénario sur lequel on a beaucoup travaillé. Et voilà, c'est difficile, je sais que c'est un travail difficile, je sais le temps que ça prend. Je sais que même si c'est pas bon... Ça ne veut pas dire que la personne n'y a pas mis beaucoup d'elle-même. Et donc, je prends ça en compte. Après, j'essaye de juste aussi. Je me dis, si c'est juste pour leur dire, pour les brosser dans le sens du poil, ça n'a pas trop d'intérêt pour eux. Mmh. Et j'ai l'impression que justement, la professionnalisation des scénaristes, ça a amené ça aussi, une plus grande acceptation de la critique de la part des jeunes auteurs. Et voilà. Après, quand je sens, j'essaye un peu... Quand je sens que c'est touchy et que la personne, elle va le prendre mal, je lâche l'affaire parce que moi, je ne veux pas perdre du temps. C'était pour eux que je le faisais, ce n'était pas pour moi. Moi, ça ne m'apporte rien, personnellement, de le faire. Moi, ce qui m'apporte, c'est de lire un scénario et ça m'apporte toujours sur mon écriture à moi ou pour mon travail de développement. Mais après, de faire des retours, honnêtement, je le fais parce que je suis sympa. Il y a plein de chargés de développement qui ne le font pas. Ouais. Donc, je le fais pour eux. Donc, s'ils ne sont pas prêts à accepter ce retour et cette critique et cette remise en question de leur scénario, bah moi, très vite, au bout de 5-10 minutes, on passe à autre chose et on discute d'autre chose. C'est eux qui décident, en fait, du ton du rendez-vous.
Tu voulais ajouter quelque chose, Liam ?
Non, moi, juste de mon point de vue, encore une fois, mes fiches ne sont sans doute pas lues directement par les auteurs, mais c'est vrai que je fais attention à toujours pondérer ce que je dis, à utiliser des peut-être ou des il semblerait que, plutôt que des même quand je suis convaincu de ce que j'écris, j'essaye de un peu je mets à la place du mec qui pourrait éventuellement lire la fiche si on lui envoyait.
Il me semblerait que ça pourrait.
Voilà, ouais. Ne peut-on pas penser que. Non, ce genre de truc. Un peu des petites pincettes.
Il me semblerait que c'est peut-être de la merde.
C'est ça. Sinon, je pensais un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur comment lire. J'ai remarqué au sein des lecteurs anonymes qu'il y avait deux écoles. Il y a ceux qui aiment lire le scénario sans rien savoir, qui lisent le scénario directement. Je n'en fais pas partie. Moi, personnellement, je suis de ceux qui, si jamais il y a une note d'intention, même si elle est à la fin du texte, je vais la lire en premier.
Ooh.
Ouais. S'il y a un casting qui est déjà attaché au projet, j'essaie de me renseigner dessus. Parce que je ne me place pas dans une position de script doctor. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour analyser et décortiquer le scénario en tant qu'objet littéraire à muscler.
Plutôt comme projet global.
Mais plus comme, ouais, ok, ce serait quoi comme film en fait ? Genre, ok, quelle gueule il a, lui, c'est qui va le jouer ? Ah, c'est Dujardin, ça peut être pas mal. Ah, notre intention, ok, ah, donc plutôt ton, un peu de comédie caustique. Enfin, bref, vraiment donner toutes ces chances à la vision du réalisateur, si le scénariste, si le réalisateur du projet. Quoi.
Tu prends tout ça et ensuite tu te plonges dans la lecture.
Exactement, c'est ça, ouais. Pour avoir toutes les cartes en main, pour vraiment savoir.
Moi, je lis rien. Enfin, je lis pas de note d'intention, je lis pas de synopsis, je lis que le scénar. Et même s'il y a des notes d'intention, je les lis pas en général. Parce que je les lis que quand je trouve le scénar vraiment bien. Mmh. En fait, j'estime que le scénar est pas bien, j'en ai un peu rien à foutre de la note d'intention, du casting.
Si le scénar est mauvais, la note d'intention va pas sauver, a priori, le scénar.
Après, je me dirais peut-être que l'auteur est moins bête que ce que je croyais, mais ça change pas grand-chose de toute façon. Pour le résultat, ça change rien.
Ouais, d'accord.
Ça me fait penser qu'il faudrait quand même faire un podcast sur la note d'intention. Hein.
Bah ouais,
moi, je suis chaud pour revenir, hein, pas de souci.
Okay, on en prend bonne note. Est-ce que dans votre parcours de scénariste, le fait de lire beaucoup de scénarios, ça vous influence au quotidien ? Est-ce qu'un scénario que vous lisez en ce moment, ça résonne directement sur le travail que vous avez
clairement
en ce moment ?
Moi, j'avais un problème de personnage masculin dans un de mes scénarios qui était un peu inexistant, comme les personnages féminins peuvent l'être souvent dans les scénarios où il y a beaucoup d'hommes. Bah, moi, c'était l'inverse, il y avait beaucoup de femmes et donc les personnages masculins en pâtissaient. Et en fait, j'ai lu beaucoup de scénarios de jeunes hommes qui écrivent des comédies romantiques sur la spécialité, c'est un garçon qui a du mal à s'engager, puis il rencontre une fille qui a encore plus de mal à s'engager que lui, et donc tout d'un coup, il a envie de s'engager. Donc voilà, donc ça, j'en ai lu beaucoup des comme ça.
Tu m'as tué d'originalité, là.
Et en fait, c'est marrant parce que en fait, je me suis rendu compte que les jeunes hommes d'aujourd'hui étaient très romantiques dans la façon de représenter l'amour, la relation de couple, qu'en fait, ils étaient beaucoup plus romantiques que les trucs que je lisais des filles. Et donc moi, ça m'a fait réfléchir sur mon personnage masculin, que je me suis dit, bah, jouons-le à fond, jouons le mec, le jeune homme hyper romantique, quoi, qui est prêt à tout accepter. Au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais gars, juste réveille-toi, quoi. Voilà. Et donc, voilà, donc ça m'a fait, c'est plutôt en ayant une réflexion sur les auteurs hommes d'aujourd'hui, moins de 30 ans,
ouais,
que j'ai eu une réflexion sur mon personnage de masculin moins de 30 ans et qui pouvait être un peu comme eux, en fait.
D'accord.
Donc ça, c'était le plus... Enfin, c'est ce qui m'a le plus aidé cette année. Après, ça aide toujours... analyser un scénario, ça aide toujours dans le sens où placer un incident déclencheur, placer une fin d'acte 1, placer un midpoint, placer... voilà.
Techniquement, c'est toujours intéressant de
voir comment
font les autres.
Techniquement, c'est toujours intéressant et j'ai l'impression que j'écris mieux depuis que je lis des scénarios.
Qu'est-ce que tu retiens de toute l'expérience que tu as acquise au sein d'Epithète, puisque tu nous disais tout à l'heure que c'était plutôt la fin, c'est ça ?
Enfin, je suis sur la fin, sur la recherche. Je suis pas sur la fin, sur le développement. C'est-à-dire que je vais continuer à suivre les projets qui sont déjà en développement. Après, moi, j'ai mon travail d'auteur qui recommence à prendre beaucoup de place, donc je pouvais pas tout faire. Bah, ce que j'ai appris. Je dirais que ce que j'ai appris, c'est que j'ai affiné ma lecture et donc par là même à être meilleure en théorie, quoi, en technique. J'ai appris à rencontrer beaucoup d'auteurs et donc à aussi... c'est pas que j'ai appris ça, mais j'ai appris la diversité des histoires proposées, en fait. Parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir ce que les autres écrivent et ce qui te permet de toi de savoir si ce que t'écris est un peu une proposition originale qui a pas déjà été lue, en fait.
T'as une position privilégiée sur un œil sur le marché, en fait.
Voilà, exactement.
Sur les tendances.
Exactement, j'ai un œil sur ce qui se fait... Enfin, j'ai un œil plus aiguisé sur ce que les gens écrivent, quoi, et sur les tendances, et par là même sur qu'est-ce qu'un projet original, en fait. Et est-ce qu'il faut absolument être original ? J'en suis pas sûre à 100%, mais c'est juste d'avoir ton originalité, en tout cas.
Et toi, Liam, alors sur la résonance de ce que tu lis sur ce que
mon
tu
travail,
écris,
ouais. C'est pareil, ouais. Déjà, d'une part sur la forme, hein, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vachement aidé.
La veine ressort, attention.
et surtout, une connaissance accrue des modes et de ce que les gens font et des poncifs à éviter, des personnages qui s'appellent Alex et des films qui se passent tous à Paris et tout ça, tout ça. Donc, ouais.
Est-ce que t'as lu les mêmes comédies romantiques ou
J'en ai lu un paquet, ouais. Et
tu reconnais un peu ce que... Ce
un
que,
peu,
ce
oui,
que
carrément, ouais. Enfin, même si je me reconnais aussi dans ce que dit Déborah, donc je me sens un peu coupable. Mais,
mais moi, je dis pourquoi pas. C'est juste que dans cette veine-là, il faut être original et il faut avoir un vrai propos, en fait. Au-delà du mec qui ne veut pas s'engager et puis qui finalement qui a envie de s'engager.
Tu
enfin, c'est,
veux dire que
c'est
romantique
une originalité.
bien sûr, ultra romantique. Hein. Sous des abords cyniques. non, mais ouais, globalement, c'est ouais, la forme et puis... essayer d'avoir conscience des poncifs et surtout apprendre comment, comment les mots sont perçus sur la page, en fait, à force de les lire, de se dire, ok, c'est un peu dur à expliquer, quoi, c'est plus un ressenti, comment mieux formuler les choses pour que le lecteur les voit dans sa tête.
Le choix des mots
et comment créer un impact comique ou émotionnel, enfin, avec juste des mots.
Quoi. C'est de la technique, finalement, aussi.
Ouais, de la technique pure, de moitié écriture, moitié mise en page, enfin la conjonction des deux, quoi, pour créer de l'émotion et créer de la clarté.
Et après, moi, ce que ça m'a apporté aussi, bah, contrairement à Liam qui ne rencontre pas les auteurs, c'est que maintenant, j'ai une sorte de petit panel d'auteurs que je sais très bons. Et je me dis, ça peut toujours me servir un jour si j'ai besoin de travailler avec des gens, si j'ai besoin sur une série d'engager quelqu'un ou si je cherche un co-auteur pour un projet. Bah, là, j'ai une sorte de vision aussi très élargie des jeunes auteurs aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup de jeunes auteurs.
Alors Liam, reviens vers ce beau micro qui se tend devant toi et sors ta calculatrice, parce que c'est le moment statistique. Est-ce que t'es prêt ?
Carrément, bah, vu qu'on parlait des poncifs, on va rentrer en plein dedans.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le contexte de ce qu'on va voir ensemble ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an tout juste, j'ai publié sur mon petit blog, mon modeste blog,
dont l'adresse est ?
Dans l'adresse c'est minimumoverdrive.blogspot.com.fr. Non, en fait, tapez juste Liam Engel, E-N-G-L-E, dans Google et je pense que le blog va sortir dans les 10 premiers résultats. Quoi.
Après la publication de ce podcast, tu seras dans les trending
voilà, c'est ça. Google. Non, voilà, j'ai décidé de publier sur mon blog des petites statistiques que j'ai fait sur les 100 derniers scénarios que j'avais lus à l'époque. J'étais tombé il y a quelques temps sur un graphique qu'un lecteur américain avait réalisé où globalement il concrétisait un peu tout ce qu'il avait vu dans les scénarios qu'il lisait, donc aussi bien l'âge des personnages, le sexe des personnages, l'endroit où se passait le film, voilà. Et j'ai décidé de faire pareil pour les films français. Donc tu veux que je déroule un petit peu les éléments importants ou tu
me poses une question ?
Bah globalement, donc c'était sur 100 scénarios qui allaient de 68 à 137 pages, donc avec une moyenne de 101 pages, voilà, donc on voit que la pagination respecte plus ou moins le minutage des films, enfin... Il y a des extrêmes, hein, mais dans l'ensemble...
On va demander à Déborah à chaque fois si elle corrobore ces données. Si tu penses que c'est à peu près ce que toi aussi tu as ressenti dans tes lectures.
Oui, alors moi je trouve souvent que les scénarios sont trop longs, par contre. J'ai un problème avec ça, mais...
Ils sont toujours trop longs.
C'est perso.
C'est presque toujours trop long, on est entièrement d'accord. Hein. Surtout quand ils sont mal mis en page et qu'ils font... il m'arrive souvent d'ailleurs de compter le nombre de caractères dans les documents. Et des fois tu tombes sur des comédies qui ont plus de caractères de nombre de caractères que The Social Network, par exemple, qui est un scénario extrêmement bavard, extrêmement long. Et là, tu sais qu'il y a un problème.
Je trouve que souvent, les dialogues sont trop longs. Mm-hmm. Et souvent, les didascalies sont trop longs. Enfin, je pense que les gens passent pas par la phase...
relecture, il serait temps de travail. Couper. C'est
ouais, exactement.
Je pensais pas que c'est ça aussi, c'est passer une maturité avant d'envoyer, avant de faire.
Oui, peut-être. Ou c'est aussi le fait de croire que tout est indispensable. Oui. Je sais pas. Mmh. Mais je sais qu'il y a un grand scénariste qui dit quand tu bloques, coupe la scène que tu préfères et tu verras, ça ira mieux.
Ouais.
Et donc, ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont très attachés, et je comprends, hein, parce que j'ai ce même problème, qui sont très attachés. Des petits détails qui en fait n'apportent rien à l'histoire et qu'ils ont du mal au bout d'un moment à avoir le recul dessus. Et c'est là que je reviens sur les lecteurs qui sont assez essentiels.
On en revient, désolé, à la mise en page, mais qu'on centre les dialogues, c'est-à-dire qu'on met des marges des deux côtés, le dialogue il est plus long, enfin il est plus haut sur la page, enfin, il prend plus de place et du coup on le coupe plus facilement, plus envie de le raccourcir. Alors,
j'ai l'impression que Liam il fait de la pub pour Final Draft. Achetez Final Draft et Liam sera content.
Non, utilisez Word si vous voulez, mais mettez-le en page correctement. Il y a aussi un truc que beaucoup de scénaristes et de jeunes scénaristes ont du mal à comprendre, c'est que il y a un adage, c'est un truc du style moins on décrit, mieux on voit. C'est-à-dire que moi, en mets de mots, des fois, c'est genre une petite maison avec un toit rouge. Et t'es là, genre, non, mais stop, tu dis une petite maison et on voit tout de suite, ce qu'on veut dire, quoi.
Ouais, ouais.
En fait, moi, je trouve que c'est nécessaire qu'aussi ça a un intérêt dans l'histoire. C'est-à-dire que le toit rouge, si à un moment dans l'histoire, on reconnaît la maison de loin parce qu'elle a un toit rouge, je le veux bien, là, à ce moment-là. Mais si, de toute façon, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, laissez tomber.
Nous, là, une phrase qu'on prononce le plus dans cette pièce quand on écrit, c'est à quoi ça sert ?
Chaque fois, voilà.
Moi, je dirais plus que ça sur le scénario. Au-delà de à quoi ça sert, c'est qu'est-ce que tu racontes. Et que chaque phrase que tu écris doit raconter quelque chose.
Mmh. Et moi, je dirais combien de caractères ça prend.
Chacun son approche, c'est super. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as relevé d'autre ?
Je vais dérouler un peu dans l'ordre. Hein. Sur les scénarios que j'avais lus, le sexe du scénariste. 64% des films étaient écrits par des hommes seuls.
Alors,
ou des duos d'hommes.
Excuse-moi, mais quand je l'avais lu, ça m'avait étonné. Mais parce qu'en fait, c'est du cinéma. Et en télé, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ah. Et en cinéma, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert cette année avec Epithète, où je suis étonnée par le peu de filles que je rencontre et qui font du ciné. Alors qu'en télé, j'en connais des millions.
Est-ce que tu as une explication ?
La précarisation de l'emploi. C'est-à-dire que chaque métier qui se précarise se féminise, malheureusement. Et qu'en télé, le métier s'est précarisé. Donc voilà.
Ouais, c'est intéressant. Voilà.
Mais par contre, je pense que si...
Ça peut changer dans les années qui viennent.
On n'arriverait pas au même stat si on faisait des stats sur le cinéma, mais du côté CNC. Et je pense que là, il y aura peut-être plus de femmes.
Peut-être.
Là, on parle vraiment de films de marché, souvent de comédies de marché, des trucs un peu efficaces. Et souvent des mecs comme Adrien et Mathieu ou moi qui les écrivons.
Oui, c'est vrai qu'en film d'auteur, entre guillemets, comme on dit, il y a plus de femmes... Il y a plus de femmes qu'en film de marché. Mais c'est vrai que moi, comme je lis des choses aussi assez grand public pour Epithète, je le ressens.
Oui.
Mais pareil, parce que le cinéma d'auteur est plus précaire.
Donc voilà, il y avait seulement 9% de films écrits seulement par des femmes. Le genre des films, alors là, c'est pas compliqué, c'était à 50% de la comédie. Hein.
Très étonnant.
Ouais, quelle surprise. Suivi du drame, avec à peu près 21%. C'est des distinctions très très floues que j'ai fait. Hein. La comédie dramatique, ce mystérieux genre qui représentait 14% des scénarios lus. Et le polar slash thriller qui représentait 6 scénarios.
Alors ça, ce sont des genres que tu as déterminés en fonction de...
Ouais, c'était un peu dur de faire la distinction subjective entre drame et comédie dramatique, mais voilà, j'ai essayé d'un peu distinguer quoi.
D'accord.
Y avait même 3 films qu'on pourrait qualifier d'aventure. Voilà.
Oh,
après, il y a des sous-genres, notamment le fameux road movie qui est très représenté. Le film choral, il y en avait 4, il y avait 2 biopics, il y avait un faux documentaire, un film de found footage et une comédie musicale. Ça c'est des sous-genres qui vont dans les grands genres. Hein.
Est-ce que ces trucs très niches comme des found footage, des films d'aventure, à la lecture ça donnait quoi ? Est-ce qu'il y a du niveau finalement en France pour ce genre de genre ?
J'aurais
c'était
du
des
mal
tentatives
à...
désespérées, un peu fan.
Non, il y avait fanboy. Souvent, ceux que j'ai lus étaient écrits par des gens qui avaient déjà fait des films ou des gens qui étaient un peu confirmés, justement. C'était des, voilà...
C'était des bons scénarios, en soi.
Je vais pas le souvenir que c'est des scénarios honteux, quoi. Mais disons que ceux qui se risquaient à ce genre de film étaient des gens qui avaient déjà réalisé un film avant, un premier film d'horreur, un premier film de genre,
d'accord.
Ou une comédie.
Parce que les films d'aventure, ça court pas les rues. Ça court
c'est
pas les salles
de cinéma. Oui, enfin, c'était de l'aventure toute relative, hein. C'était pas non plus... Je me rappelle même plus ce que c'était à vrai dire, quoi. Mais c'était pas... Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir lu À la poursuite du diamant vert ou...
Indiana Jones, le... voilà. Indiana Jones français.
Et 5% de ces scripts étaient des adaptations. Les films se passaient à 50% à Paris. Ça, c'est une de mes croisades un peu quand je lis. J'aime bien faire un petit à côté là-dessus parce que je trouve qu'il y a quand même un nombre étonnant de films qui se passent à Paris alors qu'ils n'ont pas besoin de se passer à Paris. Évidemment, si tu fais un film qui se passe dans le monde de la finance ou qui se passe dans le monde du cinéma ou je sais pas quoi, enfin ça se passe à Paris, c'est normal. Mais des fois, tu lis des films, enfin... Je sais pas, il y a quelque chose de... Et c'était pas le cas, dans les statistiques du lecteur américain,
oui.
Où la majorité des films, dans mon souvenir, se passaient dans un small town, tu vois, pas dans une métropole, quoi. Et déjà, ça raconte quelque chose un peu de...
Alors comment t'expliques ce parisianisme du scénario ?
Je pense que c'est pas compliqué, hein. C'est juste que la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma sont à Paris.
Bah oui.
Mais après, on a tous, enfin beaucoup de gens ont eu une vie avant, on vient d'ailleurs qu'à Paris. Enfin,
est-ce
voilà,
que c'est aussi pas plus facile de financer un film ?
On leur pardonne, j'ai envie de dire. On leur pardonne d'être venus d'ailleurs.
C'est mon cas.
Moi qui suis une Parisienne pure jus.
Je veux bien ton avis du coup, Déborah, sur la question.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup à Paris. Alors moi, j'avoue que j'ai eu ma petite fierté quand j'ai lu les statistiques de Liam, parce que j'ai beau être une Parisienne, et mon film ne se passe pas à Paris, mon long métrage. et d'ailleurs, j'étais... vraiment très fière parce que je ne suis dans aucun de tes...
Ah, c'est bien, c'est super. Ouais, mais vraiment,
j'étais très fière de moi. Après, ça ne veut pas dire que le film est bon. Hein. Ça veut juste dire que je ne rentre pas dans les clichés. Mais c'est vrai que oui, la plupart du temps, c'est à Paris. Souvent, ce n'est pas très déterminé, moi, je trouve, des fois aussi. C'est genre une grande ville, quoi. Enfin, ah, ils disent une grande ville. Donc, une grande ville, moi, tu te dis que ça peut être aussi Lyon, Marseille, Montpellier.
Sincèrement,
tu as plus lu peut-être en faisant attention à ça. Moi, j'y fais attention.
Et souvent, je me dis, ah tiens, c'est bizarre, là, c'est... Ah, pour une fois, c'est pas mentionné. Il y a toujours un moment où d'un coup, c'est une petite référence à un truc typiquement parisien qui vient, entre guillemets, tout gâcher, vu que c'est inutile. Enfin, c'est pas toujours inutile.
Il prend un Vélib.
Mais... Et voilà, il y a toujours un petit Vélib ou un petit...
Ouais, des Vélib, il y en a ailleurs. Ça s'appelle Vélib.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais après, enfin, moi, je trouve qu'on a un problème avec ça en France qui est un peu déprimant, quoi. Mais, et ça, c'en est une concrétisation.
Est-ce que c'est une idée qu'on se fait aussi qu'un film qui se passe à Paris est plus facilement réalisable,
c'est faux, parce que, en plus, en termes de financement, c'est faux, parce qu'il faut mieux avoir une région. Parce que l'Île-de-France, justement, tout le monde le demande, donc c'est pas évident. Et alors que, enfin, moi, je sais que mon film se passe à Cannes et que c'est une bonne chose pour mon film. Genre, tous les producteurs que je rencontre, ils me le disent. Ah, c'est bien, on va pouvoir
chercher de l'argent.
Mais
encore une fois, je pense que si on faisait des stats sur le CNC, je pense qu'on trouverait plus de films qui se passent en région, justement. Parce que souvent, c'est films d'auteurs qui se construisent sur un château de cartes où la région fait partie de ces cartes. Quoi. Mmh.
Après, c'est pas pour. Moi, j'ai placé là pour une raison sociologique et pas pour une raison commerciale.
Bien sûr. Non, mais bien sûr. Par contre, tu es donc du coup dans la deuxième région la plus représentée qui est le sud et la Côte d'Azur, qui représente 11 occurrences. Voilà. Et après, tu as des trucs différents, deux fois les Alpes, deux fois la Bretagne, une fois Orléans, une fois Villeurbanne. Et puis 11 films qui se passent en partie ou en intégralité à l'étranger.
Alors moi, par contre, ce que je remarque, mais c'est parce que ça, c'est particulier à Epithète, comme ils aiment bien les beaux décors et tout, c'est que je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films en intérieur. Et oui, personnellement, mon film est beaucoup en intérieur, donc ce n'est pas du tout une critique. Mais en fait, ça, j'ai remarqué que les gens n'utilisaient pas forcément des décors, des vrais décors. Alors peut-être par peur que ça devienne trop cher ou je ne sais pas. Mais en fait, faire de l'extérieur, ça ne coûte pas plus cher que de faire de l'intérieur. Ouais. Et c'est comme faire, par exemple, quand on fait de l'historique, il faut mieux faire dans la nature plutôt que dans une rue parisienne. C'est plus simple à produire.
Un arbre de 1512...
Ça reste le même, voilà. Quoi qu'il arrive.
Une rue parisienne de 1512, il faut la travailler.
Justement, en parlant d'époque, j'ai vu que 85% des films se passaient de nos jours, avec seulement un seul film qui se passait dans le futur, mais c'était en 2017, à cause de l'élection présidentielle.
T'as pas eu plus de scénarios dans le futur, vraiment ? Non ?
Non, dans ces 100-là, j'en ai lu aucun, et je pense que dans ma carrière de lecteur, j'ai pas dû en lire beaucoup.
C'est intéressant.
Moi, j'en ai lu un ou deux, mais... C'est très compliqué l'anticipation en France, on n'est pas très fan de ça. Et en plus, malheureusement, ce n'est pas des très bons scénarios que j'ai lus là-dessus.
Ça aurait pu être bien, ce n'était pas le cas spécialement. Mais voilà.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très fort pour écrire un genre qui est sous-développé en France, en fait. Ça joue aussi. Enfin, forcément, il faut avoir un scénario qui est béton de chez béton. Quoi.
Concernant l'âge et le sexe des héros, sans surprise, on a 62% d'hommes en personnage principal. 24% de femmes et 12% de films réellement mixtes, en fait. Pour les matheux qui écoutent, il y a peut-être des moments où ça n'arrive pas à 100, mais c'est parce que j'ai fait ça rapidement. Hein. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur.
Tu crois qu'il y a des gens qui vont faire des calculs, là ?
Je t'écoute, Liam.
Alors, on va parler vite fait de l'âge des... Alors, en fait, les hommes ont en moyenne 32 ans et les femmes ont en moyenne 37 ans.
Ah ouais.
Ce qui est étonnant, qu'on s'attend un peu au contraire, quoi. Mais par contre, dans les couples... Les hommes sont en moyenne plus vieux de 3 ans que les femmes.
Ça va très loin. Hein.
Ah, t'es allé loin dans tes...
Ouais, j'allais super quelques... loin. Ouais. Il n'y a qu'un seul scénario où la femme est plus âgée que l'homme, et c'est un film de gigolo, justement. Voilà, donc c'est assez drôle. Et je renvoie justement nos auditeurs au lecteur anonyme, à la page des lecteurs anonymes, où on a compilé justement des stats assez précises sur la représentation des hommes et des femmes dans les scénarios français. Et il y a des choses qui se recoupent un peu et des choses qui sont assez révélatrices. Donc,
en donnant les liens dans la description du podcast. Ouais.
Désolé, on va reparler de la forme scénaristique.
Pour la 14e fois.
Pour la 14e fois, je suis désolé. Un truc que j'ai remarqué en 8 ans de lecture, c'est qu'au début, quand je disais, il y avait beaucoup de Arial ou de format, entre guillemets, pas considéré comme le standard soi-disant américain du truc. Mais ça a vachement changé. Maintenant, les scénarios sont majoritairement en courrier. La fameuse typo un peu historique du scénario.
Et Final Draft surtout.
Oui, même si
il y a beaucoup de gens qui sont en Final Draft.
Oui, voilà. Même si on peut changer Celtix, parce qu'on dit Celtix en fait. Ça, c'est aussi une de mes croisades. on peut changer les paramètres de Celtix ou de Final Draft pour avoir du Arial. Mais les choses changent un peu, ouais. On a 54% de courrier, 22% de Times, 20% de Arial.
Ça nous a tué, Liam. Tu nous as tué. Le fait que ça se calme un peu. Ça t'a fait du bien dans ta vie personnelle ?
Quelque part, oui, vu que les scénarios, du coup, sont plus faciles à lire. Quoi. Enfin, ça encourage plus à de l'aération, quoi.
On dit Final Draft ou Final Draft ?
Final, final, voyons.
On dit Vord ou on dit Word?
Vord. Y a par contre un truc qui m'énerve un peu, c'est ces 15% de scripts qui ont l'étrange manie d'écrire chaque occurrence des noms des personnages en majuscules, quoi. Et ça, ça me rend fou, quoi.
C'est-à-dire, dès qu'il y a un nom de personnage, tu mets majuscule.
L'usage, c'est soi-disant, tu mets la première occurrence de chaque. La première fois que le nom apparaît, tu le mets en majuscule, comme ça on sait que c'est un nouveau personnage et ça facilite justement le travail du lecteur.
Mais oui.
Il y a des gens qui écrivent le nom du héros en majuscule, de tous les personnages en majuscule à chaque fois. Et t'as l'impression que c'est hurlé. Tu vois, c'est genre Adrien arrive dans la salle, Mathieu l'accueille. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens, quoi. Pardon, je suis peut-être en train de saturer dans le micro.
T'inquiète pas, c'est bon.
Tu nous as pété.
Non, mais pour le coup, je suis d'accord. Je trouve qu'en fait, ça, en termes de lecture, ça gâche la lecture. Ça, c'est pas utile et ça gâche la lecture.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose?
Ouais, il y a 22% de films qui ont recours à une voix off. Souvent inutile, on est d'accord. Hein, c'est
souvent moi, de toute façon, voix off, flashback, évitez.
Donne des boutons.
Et par contre, j'ai remarqué que le fameux ça, c'est moi, il était en perte de vitesse. Donc, on le voit moins souvent qu'avant.
Ça, c'est moi ça, dans la non-intention, tu veux dire?
Non, dans le scénario, genre ça, c'est moi. Lui, c'est mon meilleur pote.
Ah.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
La voix off hyper explicative, il y a un montage au début.
Il y en a quand même pas mal. Hein.
Il y en a un peu moins qu'il y a quelques années, je crois.
Ah oui, mais en tout cas, les comédies qui commencent par des voix off, il y en a masse. Hein.
Ah ouais, il y en a un paquet, ouais.
Ouais, et puis souvent tu te dis mais pourquoi?
Bah ouais.
Tu te poses la question et souvent elle est pas très bien écrite et souvent elle dit ce que tu vois à l'image.
Ouais.
Donc ça fait beaucoup de choses qui vont pas dès le
début.
Tout
ce qu'il faut pas faire.
Et il faut quand même savoir que alors quand je connais la personne, je dis scénar jusqu'au bout, mais quand je la connais pas, si au bout de 30 pages, ça va toujours pas, j'arrête.
Ouais, il faut pas insister quoi.
Ouais, il faut enfin voilà, moi je me sens pas non plus ou alors je passe très vite quoi, je regarde la fin quoi. Donc, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas passer trop de temps, nous, en tant que chargés de développement, à lire des scénars où, dès les 30 premières pages, tu sais que ça ne va pas, quoi.
Eh oui. Ouais. Alors, Liam, est-ce que tu as des choses qui se dégagent de tout ça?
Bah, écoute, ouais, il y a des modes. Alors, c'est les modes d'il y a un an déjà, hein, donc ça a peut-être un peu changé, mais à l'époque...
C'était quoi la mode à l'époque?
La mode à l'époque, c'était les films de vieux, les films d'amitié jeune-vieux ou de maison de retraite.
Ah ouais.
Il y a beaucoup.
C'est marrant parce que pourtant on n'en voit pas.
Ouais, j'en connais beaucoup en développement moi.
Ouais.
Ouais, il y en a un paquet, ouais. Mais même il y a eu quelques années, il y avait une vraie mode des films de
générationnels
qui font leur crise.
Ouais, ou d'inversion d'âge. Tu vois, il y avait eu 16 ans sinon rien, le film de avec Laurent Lafitte qui redevenait ado, je sais pas quoi.
Ouais.
Écrit par très étonnant ce film, écrit par les mêmes scénaristes que Baron Noir. Ce qui est quand même deux genres très différents.
Ah ouais.
Et je trouve que Baron Noir est exceptionnel. Mmh. Je trouve que Saison Presque l'est un peu moins.
Il y avait Les Gamins aussi.
Ouais, Les Gamins. Les Gamins, ouais, c'est un peu le même genre.
Ouais, c'est régression sociale, enfin régression dans l'enfance et tout. Ou les films avec les enfants qui prennent le pouvoir, comme C'est quoi cette famille là, le film,
Génial, mes parents divorcent, tu veux dire?
Bah non, mais voilà, des ressuscités de ça,
justement.
C'était
Lecteur en 1986 aussi, ou pas? Liam Engel, né Lecteur.
C'est ça.
En 1960.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de comédies de banlieue ou de films d'inversion sociale, du style un riche qui est obligé d'aller habiter chez les pauvres ou inversement, ce genre de choses.
Intouchable quoi.
Voilà, les suites d'Intouchable quoi, les conséquences.
Voilà. Des duos improbables, des suites de Neuilly sa mère surtout en fait.
Neuilly sa mère qui était très chouette.
Qui était très bien.
Ouais.
Je l'ai pas vu, mais ce genre de projet, ouais, ce dispositif-là est pas mal utilisé.
Qui était très bien, mais qui était le premier.
Qui était le premier.
Quand t'es le premier, ça a l'avantage de.
Ça rejoint autre chose qui est les comédies d'imposture. Un personnage qui est obligé de se faire passer pour un autre, un aventurier, un gay, etc. Ça, c'était la mode.
C'est le genre de la comédie aussi qui est très là-dessus.
Oui, voilà. Ouais.
Oui, bon, après, c'est fait partie du genre. En fait, moi, je trouve que c'est intéressant de faire ce que tu fais. Mais après, moi, en fait, si c'est un film d'imposture, mais que c'est hyper bien écrit et que c'est dans un monde que je connais pas et tout ça, pourquoi pas en fait? Je dis ça pour pas aussi décourager les gens.
Comment
elle te dénigre, Liam.
Non, mais je critique pas les gens qui ont écrit ça.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais.
C'est des stats,
mais...
en fait. C'est juste
objectivement. Oui.
Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que on pourrait aussi, quand on écoute, on pourrait se dire, ah là, mais si j'ai une idée d'un film d'imposture, ça va pas du tout. Et en fait, c'est pas le problème. La réalité, c'est que je suis sûre que dans les 100 scénarios que t'as lu, il y a eu des films d'imposture qui étaient bien.
Bien sûr.
Voilà. Et donc c'est juste que juste savoir qu'il y en a beaucoup et donc il faut encore plus être original en fait proposer un vrai point de vue et raconter vraiment quelque chose sur notre société au-delà juste du film d'imposture en fait.
Et un petit dernier mot pour dire qu'il y a pas mal d'immigrés, de clandestins et un poil de road movie.
Ce qui est marrant parce qu'on n'arrête pas de dire que le cinéma français est très très blanc, mais pourtant dans les scénars que tu lis il y a beaucoup d'immigrés et de clandestins.
C'est tout à fait vrai, ouais, je suis entièrement d'accord.
Alors
ouais.
Après peut-être le problème c'est que justement tous les noirs et les arabes sont des immigrés et des clandestins. Mais
ouais, c'est ça, en fait.
C'est une vraie question qu'il faut se poser, en tout cas.
Après, on suppose souvent que les personnages sont blancs, qu'on lit quand c'est pas précisé, quoi. Mais bon, ils sont pas obligés de l'être, mais ouais, enfin, c'est un peu compliqué, ouais. J'ai recensé qu'il y avait 50% de scénarios que je trouvais mauvais ou très mauvais.
Ah.
Je pense que tout est dit. Mais bon, quand il y en a 19% de très mauvais, c'est que je pense qu'on serait tous d'accord dessus, quoi, tu vois. Et qu'il y en a 4% de très bons, c'est qu'a priori, je suis pas plus un chieur que la moyenne, quoi.
Ouais.
T'as dégagé quand même des scénarios qui étaient pas très bons, mais qui quand même étaient plutôt chouettes.
Oui, non, il y a des scénarios pas mal de temps en temps, bien sûr. Et non, enfin, tout n'est pas nul, hein, bien sûr. Et...
Moi, je trouve qu'il y a pas mal de scénarios qui sont plutôt bien écrits. Surtout, bah, pour le coup, là, c'est l'avantage des écoles et de la formation et tout ça. Mais il y a pas mal de scénarios qui sont bien écrits. Et après, juste, tu te dis,
c'est pas mon truc.
Non, c'est au-delà de ça. C'est que c'est pas. Qu'est-ce que ça dit de nouveau? Qu'est-ce que ça raconte vraiment? Qu'est-ce que c'est quoi le point de vue de l'auteur? C'est plus ce genre de questions, finalement, qui laisse, enfin moi en tout cas, qui me laisse un peu sur le côté. Mmh. Après, des scénarios où techniquement les choses sont bien placées, où il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans en tout cas.
Mmh.
Ça, c'est sûr.
Alors Liam, est-ce que tu peux nous faire le pitch du scénario moyen de toutes tes lectures?
Bah, écoute, j'ai essayé de le faire. Ouais, c'était.
C'est drôle ça.
On se disait que l'idéal, ce serait de faire un film sur un Parisien de 32 ans. Obligé de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans un milieu qui n'est pas le sien, qui se lierait d'une amitié improbable avec son opposé, en l'occurrence un vieux qu'il faut faire sortir de la maison de retraite et partir ensuite en road trip avec lui.
Pendant les élections de 2017.
Pendant les élections de 2017, voilà, c'est ça.
Génial.
Je pense que là, on remplirait toutes les cases, ce serait nickel.
Super. Et tu l'enverrais à Déborah pour lecture.
Voilà.
Voilà. Et je te dirais, ah mince, j'en ai déjà lu 10 comme ça.
Alors, on a pas trop parlé de nous finalement, mais toi, Adrien, t'as lu
oui, oui, quelques scénarios. Oui, j'ai lecteur aussi, ouais, ouais, pour une société de distribution. Et là, pareil, on lisait des scénarios toutes les semaines, un par semaine environ. Parce qu'on était plusieurs, bien sûr, on se connaissait pas, mais tous les lecteurs.
C'était en quelle année?
C'était il y a 2 ans, je crois, à peu près.
Et tu voyais passer quoi comme sujet à la mode?
J'ai lu des projets indépendants. J'ai lu. Bizarrement, les meilleurs projets étaient écrits en anglais, mais n'étaient pas forcément des États-Unis, ils venaient plutôt d'Angleterre ou de pays comme ça. C'était plutôt chouette. J'ai eu un vrai coup de cœur sur un projet anglophone et c'est tout.
Et qui s'est fait?
Je ne sais pas. C'est une bonne question, il faudrait que je regarde.
T'en as lu combien?
J'en ai lu une dizaine. Une bonne dizaine. D'accord. Donc, putain, j'ai lu le scénario d'un de mes profs, ça c'était terrible, là. Le prof de fac, que j'adorais, et j'ai lu un de ses scénarios qui était pas très bon, le pauvre.
Ah là là.
Mais avec un bon casting pourtant, mais c'était un genre particulier. Voilà.
Petite expérience vite résumée.
Oui, oui, parce que ça n'a pas été... J'ai décidé d'arrêter parce qu'effectivement, c'était très chronophage. Moi, je m'étais à peu près... Je me suis dit, voilà, pour être honnête, je vais dire un prix, on me payait 50 euros pour faire une fiche de lecture. Bien sûr, en espèces, on ne payait pas, c'était pas déclaré du tout en espèces. Je ne sais pas comment font comptablement les sociétés pour sortir de l'argent en espèces, il faudrait qu'ils m'expliquent. Donc je me suis dit, ok, c'est 50 euros, je dis, ça me revient à 10 euros de l'heure, donc je n'y passe pas plus de 5 heures. Et en 5 heures, je torchais ma fiche de lecture. Mais j'avais du travail régulièrement, c'est que la nana aimait bien mes fiches de lecture, mine de rien, donc elle m'en redemandait. Mais en 5 heures, je me disais, je ne fais pas plus de 5 heures là-dessus. Lecture du scénario compris. Donc, je tapais vite, je synthétisais très rapidement, je faisais même du temps de faire des recommandations, des pistes de réécriture. Je faisais mes petits points négatifs, points positifs, et 5 heures terminées, quoi.
Bah, ça prend à peu près ce temps-là. Moi, je peux faire en 3-4 quand je connais déjà le scénario.
Ouais.
Et que, voilà. Mais ça prend à peu près ce temps-là. Si tu le fais à peu près bien, ça prend à peu près ce temps-là.
Ouais.
Après, il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps. Et là, pour le coup, c'est pas du tout rentable.
C'est ça.
Mais après, moi, pour le CNC, je lis des bibles de séries. Donc là, pour le coup, on met moins de temps, mais c'est moins bien payé aussi.
Oui. Mmh.
Je ne sais pas combien c'est payé une fiche de lecture chez...
Ça dépend un peu, ça peut varier de 70 euros brut à, on va dire, 130, quoi.
Ouais, j'étais vraiment mal payé. Ouais.
Mais par contre, moi, j'ai toujours été payé en étant déclaré.
Ouais, mais après, quand tu travailles avec le CNC, j'imagine, ou des sociétés,
ouais,
y a plus de problème.
Ouais, j'ai TF1 aussi à un moment.
Ouais, voilà, ça, c'est quand même plus cool.
Alors, c'est bien, vous faites ma transition. Je voulais qu'on parle un petit peu de la lecture de scénario comme métier, justement.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui veut devenir lecteur, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez déjà? Et si oui, comment faire? Comment est-ce qu'on peut
financièrement
vivre...
je conseille d'être chargé de développement plutôt que lecteur, hein, parce que c'est beaucoup plus rentable.
Le lecteur permet peut-être après d'accéder à chargé de développement.
Je pense que chaque en fait le truc du poste de chargé de développement, c'est que selon la personne qui le prend, il est très différent. Il y a autant de façons de faire du développement que de chargé de développement, en fait. Et selon aussi la société, ce qu'elle a besoin, la société qui t'engage, ce qu'elle a besoin. Moi, c'est vrai qu'ils étaient très attachés au fait que je sois auteur d'abord et que je puisse suivre les projets, que je sois dans la proposition. On a aussi développé pas mal de projets en interne, des idées qu'ils avaient eux, donc où j'ai dû beaucoup discuter avec les producteurs pour déterminer quelle était vraiment l'idée et d'essayer de trouver les auteurs pour ça. On a même créé des petits ateliers pour travailler sur ces idées-là, où évidemment les gens étaient payés pour venir et pour brainstormer et voir un peu ce qu'il en sortait, voir voilà, vers quelle direction on avait envie d'aller avec cette idée. Et donc au final, on a trois projets comme ça qui sont des projets en interne, en fait, qui ont été développés en interne, donc qui appartiennent à la société, que les auteurs travaillent dessus. Maintenant, c'est devenu leur bébé, mais voilà, c'est ils peuvent pas partir avec le scénario. Quand, si jamais ils ne sont pas d'accord avec la direction que ça prend, ils ne peuvent pas partir avec le scénar. Donc ça, c'est des choses de contractuelles. Donc ils avaient envie de quelqu'un qui soit moteur dans cette dynamique d'écriture, quoi. Donc voilà, mais par contre, moi, dès le début, j'ai dit que je n'écrirais pas. Et de toute façon, ils ne me l'ont jamais demandé. Mais j'ai dit, voilà, moi, je n'écris pas. Je peux donner plein d'idées. Y a pas du
j'ai parti, en fait. C'est compliqué.
Mais non, et puis c'est surtout que j'aimerais pas, en tant qu'auteur, qu'un chargé de développement, il passe derrière moi. Et en plus, je trouve qu'écrire, c'est un autre travail qui ne prend pas la même partie de mon cerveau et qui est beaucoup plus chronophage que de lire ou de faire des retours. Et que c'était pas... Et puis après, il y a une histoire aussi de droit d'auteur et que je refuse de rentrer dans ces trucs moraux. Donc, on a établi ça dès le début. Après, ils ne m'ont jamais demandé. Hein. C'est moi qui ai préféré être claire dès le début. Et je ne sais plus c'était quoi la question au début.
Comment vivre de la lecture de scénario?
Moi, je ne vis pas de la lecture de scénario. Je vis en étant chargée de développement. Et il se trouve que je travaille pour une société qui estime que c'est un travail important et donc qui me paye bien pour le faire. Voilà.
D'accord.
Yann, qu'est-ce que tu en penses?
Comment on devient lecteur?
Alors, je vais répondre à cette question, mais d'abord, un petit mot sur ceux qui vivent du métier de lecteur. On est au sein des lecteurs anonymes, je crois qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui sont vraiment juste des lecteurs professionnels, qui font que ça. Les autres sont tous des scénaristes ou ils font autre chose à côté et ils gagnent quelques ronds à côté en étant lecteur. Comment on devient lecteur? Si les gens veulent candidater quelque part, le mieux c'est de trouver le nom de la personne chargée du développement dans les grosses boîtes, les gros distributeurs, etc. Les contacter, si possible se faire recommander par quelqu'un, et surtout mettre en avant les spécificités, aussi bien si la personne est anglophone, ou même si vous habitez Toulouse, ou si votre père est africain, ou si quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas juste des babtous fragiles en lecteur.
Des babtous fragiles.
Non, mais voilà, qui a un côté un peu souvent, enfin voilà, si vous êtes une mère célibataire à Marseille quelque part et que vous savez lire et écrire de manière vraiment un œil pour le scénario, je pense qu'il y a pas mal de directeurs de développement que ça intéresserait.
C'est rassurant.
Il y a un côté un peu plus ça, c'est le entre guillemets peuple, c'est pas juste des étudiants en cinéma à la con qui vont juste se
plaindre. Ils connaissent rien à la vie, quoi.
Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, mettez en avant votre singularité, votre singularité qui fait que vous pourrez lire le scénario d'un point de vue spécifique à vous.
Alors, on va vous poser des petites questions un peu rigolotes, un peu bonus. On a abordé cet aspect-là un petit peu tout à l'heure avec toi, Déborah. C'est quoi votre rituel de lecture? Est-ce que vous avez des petites habitudes au coin du feu?
Un thé, par exemple?
En buvant un thé
Bah, moi, j'imprime toujours, par exemple.
Voilà, enfin, ça, on en a parlé, oui.
Je ne sais pas lire sur ordinateur. Après, il y a un très bon canapé chez Epithet sur lequel je m'allonge et je lis en étant allongée. C'est comme ça que je lis le mieux, parce qu'après, si je suis devant l'ordi ou près de mon portable, je suis souvent dérangée par les mails et par les appels. Donc je me mets un peu à part, en fait, pour lire.
T'es plutôt d'une traite, alors? Tu vas tout lire d'un coup?
Je vais essayer quand j'ai pas de réunion, quand j'ai pas de choses qui me coupent. Je préfère lire d'une traite.
Ouais. Quand on passe chez Epithet, qu'on voit quelqu'un sur le canapé, les feuilles à la main, c'est toi en général.
C'est Déborah.
Je suis cachée dans un coin. Il paraît que c'était le canapé en plus de jeûner, parce qu'ils ont produit Micmac.
À Tire-Larigot,
voilà. Et que Jeunet avait demandé un canapé spécifique où il n'y avait pas deux coussins, mais c'était un grand coussin.
D'accord.
Pour pas qu'on tombe au milieu, vous voyez. Et donc c'est vrai qu'il est très bien, donc je dis merci Jean-Pierre.
Jean-Pierre, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup.
Toi, Liam, est-ce que tu as des petits rituels?
Moi, globalement, je suis pas assez bien payé du coup pour pouvoir imprimer chaque scénario, même si j'aimerais bien. Donc je les lis en général dans les transports ou limite parfois à la salle de sport, sur le téléphone, en fait. Ça m'arrive, en essayant de faire de pas perdre de temps, quoi. Enfin,
c'est un rituel aussi, hein.
Voilà, ça dépend des scénarios, hein. Si c'est le scénario d'un pote, je l'imprime, et je la note page par page et tout. Hein,
c'est un film sur le running, là t'es...
là c'est parfait, ouais. Non mais voilà, disons que je suis pas très bien payé, donc j'essaie de faire ça rapidement, sinon c'est vraiment pas rentable. Si le scénario est bien, je lis bien. Enfin, je lis tous les scénarios bien au début, Et au bout d'un moment, quand tu dis 30 pages ou je sais pas combien, il y a un moment où tu as compris où ça allait, enfin si ça allait être bien ou pas, si ça valait le coup de rentrer dans, vraiment dans les détails. Et si c'est vraiment mauvais, là, en général, tu te surprends à accélérer, en fait, quoi. Tu commences à...
Ouais, tu sautes.
Ton œil commence à sauter un peu, tu vois un peu où ça va. Donc voilà, c'est pas un très bon rituel, mais c'est la réalité du métier.
Et pour vous, c'est quoi le meilleur moment pour lire un scénario?
Le matin, le soir,
Moi, quand t'as le temps, je dirais. Enfin, quand t'as le temps, quand t'es concentré, quand t'es pas trop fatigué, parce que c'est vrai que ça demande quand même de la concentration de lire. Ouais. En plus, moi, je fais qu'une lecture, donc je lis en prenant des notes. Je prends des notes à côté au stylo.
Ah, tu fais qu'une seule lecture.
Moi, je suis un peu à l'ancienne, hein, genre j'imprime, je prends des notes sur un cahier, voilà. Et donc j'ai mon cahier à côté et je prends des notes, quoi. Donc je fais pas deux lectures. Je fais deux lectures quand on commence à rentrer dans le développement. Là, pour le coup, je fais plusieurs lectures, mais quand c'est juste pour lire et pour de la recherche, je fais pas deux lectures.
William, est-ce que t'as un moment particulier?
Non, pas vraiment de moment. Le plus dur, c'est de trouver un moment de temps continu où t'arrives à le lire en entier et où t'as assez de rigueur pour pas t'arrêter en plein milieu.
Ouais. Alors moi, c'est vrai que je suis au bureau, je suis payée pour faire ça. Enfin, c'est pas mes heures, elles sont faites pour ça. Donc donc j'ai 8 heures par jour. Alors pas que ça, évidemment. Parce qu'il y a de la recherche, il y a des rencontres, il y a tout ça, mais je suis là pour ça, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que j'en ai lu 160 en un an.
Vous lisez vite?
Ouais, je lis très vite, moi.
Ouais. Moi, je lis extrêmement vite aussi. Ouais.
Oh là là, la chance.
Mais je pense que c'est indispensable pour être lecteur ou pour faire du développement. Si on lit lentement, c'est foutu. Ouais.
Moi, je rêve de lire vite, j'y arrive pas. J'ai essayé des techniques et tout. Et, j'ai un cerveau ralenti.
Combien de temps tu mets pour lire un scénar?
En général, je le fais en plusieurs fois, donc je sais pas exactement.
Moi, en général, je mets une heure et demie.
Ouais, le temps du film, quoi.
Oui, ça, c'est une heure et demie à peu près, je pense. Réellement. Une fois que tu lis en plusieurs parties, tu perds du temps, ça rallonge en fait.
Ça, par contre, oui, le temps de te remettre dedans.
C'est ça, genre, attends, j'en étais où? Ah oui, machin.
Mais c'est pour ça que je prends des notes, moi. Parce que je prends aussi des notes sur l'histoire, en fait.
Oui,
je prends des notes sur.
Moi, je dois faire un résumé, donc du coup, je suis obligé de bien noter les trucs, ouais. En général, c'est ça. Au début, tu lis très précisément, tu prends plein de notes, t'as tout le setup. Et puis après, en général, la plupart des films sont prévisibles et tu comprends au fur et à mesure que, en fait, tel personnage n'était pas important, l'enjeu c'est ça, ça et ça. Et tu commences un peu à lire en focalisant ton attention sur ces détails-là.
Est-ce que vous trichez un peu des fois, vous allez vite voir à la fin ce qui se passe
Quand c'est nul, oui.
Ça m'est arrivé. Sinon,
pas quand c'est bien, non.
Mais pas d'impatience, non.
Non.
C'est qui le tueur?
Alors, je lis pas beaucoup de polar, moi, donc j'ai pas beaucoup ce truc de suspense et tout ça. Je lis beaucoup de comédies, du drame.
J'ai connu une fois quelqu'un qui m'a dit qu'il lisait beaucoup de romans de suspense et tout ça. Et la première chose qu'elle faisait, c'était lire la dernière page pour savoir direct qui était le tueur et tout ça. Enfin, ça m'a.
Ça, c'est hallucinant.
Après, c'est toujours bizarre. Pas d'explication. Le plaisir doit être dans comment on y arrive, en fait. C'est ça.
Oui, je suis assez d'accord, mais bon, quand même, c'est un peu dommage.
Pourquoi pas?
Mais imagine, il y a un twist dans le twist où tu apprends l'identité du tueur à la page 20. Du coup, la meuf se serait spoilée le twist en croyant.
Ouais, j'ai pas d'explication. ça me perturbe encore aujourd'hui quand j'y pense.
Par contre, moi, il y a un truc que je fais de plus en plus vite en étant à Epithète, enfin que j'ai appris à faire dans l'année, c'est que maintenant, je prends 5 lignes de notes et je peux te tenir une heure de rendez-vous. C'est genre, je mets les points essentiels. Je me rappelle juste de certains mots, je mets des mots-clés. Et en fait, je peux tenir une heure en faisant des retours sur le scénario.
C'est l'habitude.
C'est l'entraînement, je pense. Ouais. C'est, voilà. Après, j'ai une bonne mémoire aussi. Je ne sais pas si c'est utile pour le développement, mais...
Tu lis vite, tu as une bonne mémoire. Tu es efficace. Ouais. Voilà, efficace, tout ce que je ne suis pas.
Ouais, j'ai plein d'autres défauts. Hein. C'est parce que là, on n'en parle pas.
Mais... Voilà, on parle de choses qui mettent en valeur tes qualités.
Ouais, mais je trouve ça... Moi, personnellement, je trouve ça plus facile de faire du développement que d'écrire. Ça me prend... Ça me prend un dixième de mon cerveau par rapport à l'écriture. Hein. L'écriture, ça me prend la tête. Clairement, je trouve ça laborieux, je trouve ça long, je trouve qu'on n'est jamais sûr, on est toujours dans le doute. Dans le développement, il y a une forme de... Enfin, pour moi, il y a des gens pour qui ça serait une angoisse, mais moi, il y a une forme de sécurité, quoi. On te donne des scénars, t'as à les lire et t'as à dire ce que t'en penses, si t'as les outils, si tu sais un peu parler aux auteurs, parce que je pense que ça, par contre, ça, c'est vraiment important. La relation avec les auteurs est très importante. Moi, j'espère, ça c'est à eux de le dire, mais j'ai l'impression d'avoir des bonnes relations avec les auteurs avec qui on développe. Pour le coup, c'est plus à eux de le dire. Mais en tout cas, moi, je me sens assez à l'aise pour être franche avec eux, tout en faisant attention à les protéger aussi. Quand des fois, je fais un peu tampon entre le producteur et les auteurs aussi, ce qui est mon taf, quoi. Donc voilà, mais moi, en tout cas, ça me prend... pas beaucoup de capacité intellectuelle par rapport à l'écriture. C'est surtout que je compare à l'écriture. Je pense que quand on n'a jamais écrit et qu'on fait du développement, ça te prend bien la tête parce que tu n'as pas cette notion de qu'est-ce que l'écriture. Mais à partir du moment où tu as écrit,
T'es descendu, quoi.
Ouais. Ah bah, t'as l'impression que c'est quand même vachement plus facile, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Liam, mais...
Pardon, je pensais à autre chose.
Il pensait à la forme que...
Non, je pensais à la forme. Non, mais en fait, non, pardon, je suis désolé. Non, en fait, je pensais juste à un truc.
Qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure?
Combien de pain au chocolat je vais manger, vu que c'est matin, là? Non, en fait, globalement, en fait, on posait la question tout à l'heure de quel conseil on avait à donner aux gens. Moi, j'ai un conseil, c'est celui de rajouter un résumé d'une page de son propre texte à la fin pour mâcher le travail des gens et pour mettre pour faire du lecteur ton ami, en fait.
Est-ce qu'il y a un scénario qui vous a marqué, en bien ou en mal? Vous n'êtes pas obligé de spoiler l'intrigue, vous n'êtes pas obligé de spoiler qui sont les auteurs. Quelque chose, voilà, un souvenir de lecteur.
Le scénario marquant, pour quelle raison peut-être
Alors, bah, moi, c'est les auteurs sur qui on a signé sur 5 pages, là, où j'avais lu un dialogué avant sur autre chose. Il s'appelle Jean-Yves Arnaud, l'auteur, je le dis parce que c'est un très bon auteur. Et, et en fait, j'avais son scénario sur mon bureau. En fait, c'est un ancien élève du conservatoire d'écriture, mais qui a fait conservatoire d'écriture après une carrière de juriste. Enfin voilà, il a 36 ans, c'est pas un très jeune auteur dans l'âge. Et en fait, j'appelle l'assistante de direction du conservatoire d'écriture que je connais bien, vu que j'ai fait le conservatoire d'écriture il y a 10 ans. Et je lui dis, alors qu'est-ce qu'il y a cette année en comédie, chez Epithète, on avait une recherche plus particulière de comédie cette année. Et donc elle me dit qui elle trouve bien, et je les appelle, et je lis, et je les rencontre en général. Et là, elle me dit, écoute, c'est pas du tout de la comédie, mais lis, c'est génial. Et je reçois donc un scénar sur Fouché, au temps du régime de la terreur, qui est un des adversaires de Robespierre. Je vous assure que comme ça, j'étais là en train de me dire, ok, c'est bien, donc je vais le lire. Elle me dit que c'est bien, donc je vais le lire. Mais quand même, il est resté bien un mois sur mon bureau. Et j'ai raconté à Jean-Yves, hein, donc il sait. Il est resté bien un mois sur mon bureau à me dire, il faut que je me plonge dans cette histoire de Fouché, ça va me gonfler, je sens. Mais il faut que j'y aille. Et dès les premières pages, j'ai été happée. C'était vraiment très bien écrit et très agréable. J'ai appris plein de choses. Et c'est vraiment pas facile de faire du drame historique et tout. Mm-hmm. Et donc, ce scénar, je l'ai fait lire à mes producteurs en me disant bon, c'est pas ce qu'on a envie de produire en ce moment, même si ça aurait pu être le cas à un moment chez Epithète. Mais c'est plus ce qu'ils ont envie de produire. Ouais. Mais il faut qu'il le rencontre absolument. Et en fait, en 2 jours, tout le bureau l'avait lu. Tout le monde trouvait ça super. On les a rencontrés. Ils avaient un autre projet donc sur 5 pages qu'il coécrit avec sa femme, qui s'appelle Mathilde. Et donc, on a acheté ce projet-là. Mmh. Et vraiment, en fait, j'aime être surprise. C'est surtout ça. C'est-à-dire que j'étais là en train de me dire... Ouh là là, je vais me taper du Fouché et du Robespierre. Est-ce que j'en ai vraiment envie là maintenant ?
T'anticipais un truc et en fait, t'as été surprise.
J'anticipais un truc et j'ai été surprise par la qualité d'écriture et par surtout le romanesque, en fait, de me dire qu'on ne me racontait pas juste l'histoire, on me racontait une histoire.
D'accord.
Et toi, Liam, un souvenir marquant.
Moi, je vais nommer des gens. Ces dernières années, j'ai été séduit par un scénario qui s'appelait La main sur l'écorce d'un mec qui s'appelle Antoine Renan, je crois. Il y a un film d'un ami qui s'appelle Peter Dwondzis.
Pourquoi ça t'a marqué ?
C'est une histoire de disparition d'enfant que je trouvais assez, assez complète et assez à la fois palpitante et humainement très riche.
Okay.
J'ai lu 2 fois celui-là d'ailleurs. Il y a un film d'un ami qui s'appelle Peter Dwondzis qui est produit par Année Zéro. Je ne sais pas ce que c'est le titre actuellement, c'est une histoire de serial killer. Pareil, très très bien écrit, très très dense. Il y a un film écrit par les Indélébiles, enfin par une partie des Indélébiles, Léo Carman et Sabrina Karin, là, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs.
Il s'appelle Simon et il est chez GECO et c'est celui qu'on a signé dans la filiale d'Epithète.
Ah bah voilà, comme quoi on se retrouve sur les trucs. Je savais pas que c'était ça en plus.
Heureusement qu'on a dit un scénario.
Oui. Ah pardon, la merde. Okay.
En même temps, c'est dommage, on n'aurait pas parlé de Sabrina Karin et de Léo Garman.
C'est vrai.
On passe à l'instant promo. Un petit mot, Déborah, La Mafia Princesse. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
La Mafia Princesse, c'est un collectif d'auteurs qui écrit des projets ensemble, des projets de série en règle générale, parce que l'écriture collective est plus télévisuelle que cinématographique. Et aujourd'hui, au début, on écrivait toujours à 5. Aujourd'hui, on écrit des projets à 2, à 3. Voilà, on n'est pas forcément à 5 parce qu'on n'est pas toutes dispo en même temps. On travaille toutes beaucoup. Donc voilà.
Petite actu, un truc qui.
On a une actu, mais top secrète. Donc je reviendrai pour en parler quand ça sera moins top secrète.
Où est-ce qu'on vous suit ? On vous retrouve ?
On a un site, mais qui n'est jamais mis à jour. On est nul pour ça. Mais en tout cas, il y a nos portraits dessus et il y a notre fonctionnement un petit peu.
Et toi, est-ce qu'on peut te contacter ? Tu es sur Twitter ou quelque chose ?
Moi, je suis sur Twitter, Deboaz, Deboahs. Et je suis sur Facebook, mais en fait, évitez les gars. Je prends pas, en fait, je prends pas les gens que je connais.
Que les amis.
Je crois alors que sur Twitter.
Je crois que je t'ai jamais demandé d'ailleurs en ami Facebook. Tu vois,
mais plus d'heure de pas le faire. Toi, je te connais, donc ça va, je te prendrai. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que le poste de chargé de développement, contrairement au lecteur anonyme, il est pas du tout anonyme.
Oui, t'es exposé et du coup, les gens s'intéressent.
Et du coup, les gens essayent de me contacter. Et finalement, si vous voulez me contacter, contactez-moi plutôt à Epithète, ce sera le plus simple, quoi. Voilà.
Et comment on fait alors?
Deborah Hassoun, tout attaché, @epithète-film avec un s.com.
Ok, merci. Et toi, Liam, c'est quoi ton actu?
Tous mes films sont visibles sur internet. J'ai un petit site qui s'appelle liam-engel.com. Engel, E-N-G-L-E. Ou sinon, Liam Engel dans Vimeo, ça sortira direct. Et puis voilà.
McMeuf, c'en est où?
Oh, McMeuf, c'est fini. Il a fait sa carrière en festival, il a fait sa carrière télé, il a fait sa carrière internet. Donc maintenant, il a bien buzzé, c'est cool. Ouais.
Eh ben super.
On te retrouve où? Sur Twitter aussi?
Sur Twitter, Liam_Engel, je crois.
Tu crois?
Ouais, je crois. Je sais même plus en plus, mais je crois que c'est ça. De son Liam Engel, il n'y en a pas mille.
On mettra des liens de toute façon.
Ouais, carrément, ouais. Et puis voilà, sinon sur Facebook.
Bien, merci. C'est la fin de ce podcast. Nous remercions nos chers invités. Deborah Hassoun, scénariste, membre du collectif La Mafia Princesse, mais aussi chargée de développement chez Epithète Film. Liam Engel, scénariste et réalisateur. On remercie pas Pierre-François parce qu'il n'était pas là.
Voilà.
Même si on lui passe le coucou. Merci à vous d'être venu si matinalement pour enregistrer ce podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème les outils du créatif. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, laissez-nous une note sur iTunes, un petit commentaire, ça nous aide beaucoup, n'est-ce pas Mathieu?
Ça nous fait remonter dans les classements et ça nous fait un petit peu connaître. Voilà, ça nous aide, c'est sympa. Merci à toi qui le fera.
Auditeur. Si vous avez une question, une remarque, une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienetmathieu.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.adrienetmathieu.fr, sur Facebook, Instagram et Twitter, @demecdrôle. On vous dit à plus.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.